ensemble de thématiques très différentes en vérité. Voilà, ce matin, on va parler du genre avec Colleen Cardy, par exemple, qui est donc maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris 8, chercheuse au CRESPA CSU, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous expliquerez tout ça. Donc elle travaille sur la déviance et le contrôle social des femmes. Elle publie en septembre, à la rentrée, avec Geneviève Pruvot, un ouvrage, « Penser la violence des femmes chez La Découverte ». Le titre de son intervention donc sera « Les normes de genre des inégalités entre les femmes ». Donc voilà, donc elle va intervenir, elle va discuter autour du concept de genre, expliquer comment finalement ce concept intègre une différenciation entre les femmes également, selon l'origine sociale, nous expliquera ça également. Nous aurons également l'intervention de Raphaël Guidé, maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Poitiers. Elle travaille sur la dimension éthique et politique de la littérature contemporaine, et notamment en fait, sur les représentations de la violence historique et de la critique du capitalisme. Voilà. Donc elle fera une présentation dont le titre sera « Observer la pauvreté, la littérature et les sciences humaines face au savoir des pauvres ». En fait, elle comparera donc à la fois un essai littéraire et un essai en sociologie et en économie. Donc sur la façon dont est envisagée les pauvres et l'expérience de la pauvreté. La troisième intervention, donc ce n'est pas dans l'ordre, hein, on fera ça tout à l'heure, donc c'est Wilfried Cerisier, doctorant à l'Institut français de géopolitique. Il travaille sur les évolutions de la gouvernance urbaine en Seine-Saint-Denis, dans le 93, depuis 1998, pardon, en rapport avec les transformations territoriales et les dynamiques sociologiques, pardon. Le titre de son intervention donc, se portera sur les discriminations territoriales et le cumul des inégalités en Seine-Saint-Denis. Il nous expliquera en fait comment la production d'une représentation négative d'un territoire, donc, notamment au regard des inégalités qui existent au sein d'un territoire, et notamment disons la situation sociale par rapport aux autres départements, notamment en Île-de-France. Donc comment cette production d'une représentation négative crée en fait, enfin, est source d'une nouvelle discrimination territoriale pour les gens finalement qui y habitent. Et puis enfin, c'est lui d'abord qui entamera cette table ronde. Donc Vincent Bonnecaze, qui est historien et chercheur en sciences politiques au CNRS, au sein du membre, enfin il est membre du laboratoire LAM, donc à Bordeaux, qui veut dire les Afriques dans le monde. Il travaille sur l'histoire des savoirs, sur la pauvreté en Afrique coloniale et postcoloniale, et les mobilisations sociales face à la faim en Afrique aujourd'hui. Alors, il traitera plus précisément en fait de ce deuxième thème ce matin, donc sur les mobilisations sociales face à la faim. Et puis finalement, je crois que c'est comment est venue finalement l'urgence de comparer les conditions de vie, notamment l'accès à l'alimentation entre c'est ça entre entre enfin au sein de l'Afrique coloniale, à la fin de l'Afrique coloniale. Donc voilà le titre de son intervention, Comparabilité statistique et incomparabilité raciale en Afrique française sous le colonialisme tardif, comment concevoir l'inégalité dans un cadre impérial. Je te donne la parole.
Merci beaucoup Cédric et merci beaucoup aussi Patrick et Raphaël pour ce beau colloque qui réunit des gens très très différents. L'objet général de mon intervention, c'est de parler des conditions de formalisation des inégalités dans le monde, au tournant des années 30 et des années 40, en essayant de discuter le rôle contradictoire qu'a joué le paradigme de la race d'un côté et le chiffre, les statistiques de l'autre. Et pour rétrécir un objet, c'est ce que je voulais parler de manière générale au début, et puis je me suis dit que c'était un peu large, et pour le rétrécir, je vais parler plus spécifiquement des inégalités alimentaires, donc de l'émergence de l'idée de faim dans le monde. Donc ma question de départ, qui est assez simple, c'est quand a-t-on commencé à parler de faim dans le monde. Aujourd'hui, c'est une expression qui renvoie tout de suite à du sens, qu'on associe à des chiffres de la FAO qu'on a plus ou moins en tête, qu'on associe à des images, à du sensible. On voit les enfants du Sahel. C'est aussi, on peut dire, une métaphore très consensuelle des inégalités. Mais cette expression, elle n'a pas toujours fait sens. Et quand on regarde, par exemple, les débats de la SDN dans les années 30, donc l'ancêtre de l'ONU, on parle très peu de faim dans le monde. Et quand on en parle, on associe plutôt ça à des territoires comme l'Europe de l'Est ou comme la Russie. Et juste pour donner un petit exemple que je trouve assez significatif, une des premières grandes ONG qui traite spécifiquement des questions de famine, qui s'appelle Oxfam, que vous connaissez peut-être, elle est créée en 1942 par des étudiants britanniques pour venir en aide à un pays victime de la famine, et ce pays, c'est la Grèce. Donc, d'où l'idée qui va traverser mon intervention, parler de faim dans le monde, d'abord, ça suppose de parler de monde tout court, c'est-à-dire de parler de monde commun, compris comme un espace de comparabilité, un espace de réciprocité, un espace où on compare, où on mesure les choses, où on pose des normes communes pour l'ensemble des populations humaines. Et clairement, dans les années 30 et dans les années 40, les populations européennes et les populations africaines, elles ne font pas partie du même monde. C'est-à-dire que dans les différents empires coloniaux, il y a une espèce de barrière d'incomparabilité qui sépare les blancs, les populations d'origine métropolitaine et les populations colonisées, une barrière qui se pose dans des termes juridiques. Il y a les sujets indigènes d'un côté et les citoyens métropolitains de l'autre, mais aussi dans des termes biologiques. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle noirs et blancs puissent avoir les mêmes aspirations sociales ou même les mêmes besoins biologiques, le fait qu'un corps puisse avoir les mêmes besoins, ce n'est pas quelque chose encore de clairement identifié dans l'entre-deux-guerres. Et l'idée de mon intervention, c'est finalement d'expliquer le délitement de cette barrière d'incomparabilité ou peut-être la débiologisation de cette barrière. Et en discutant en particulier le rôle du chiffre dans ça. Et ça renvoie à un autre corpus qui est le corpus des historiens de la statistique. Il y a un spécialiste de l'histoire du chiffre, Alain Desrosières, qui est vraiment un très grand monsieur à la fois génial et très humble. Et je tenais à le souligner, et donc qui a montré dans ses travaux l'histoire, la force politique de la comparaison statistique, c'est qu'une partie de ses travaux, mais qui montre comment le fait de comparer les nobles, les roturiers, les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, ont concouru à poser la possibilité de transformation politique, seulement la possibilité, à défaut souvent de transformer réellement les choses. Et c'est ça que je voudrais discuter ce matin pour la question spécifique des inégalités alimentaires et en interrogeant surtout la place que l'Afrique a progressivement pris dans la représentation de ces inégalités. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la conception qu'on pouvait avoir de la faim dans le monde dans les années 30. Le premier espace où on est susceptible de parler de la faim dans le monde, c'est les organisations internationale et en particulier la SDN. C'est dans les années 30, dans le contexte de la crise économique, que la SDN se met vraiment à beaucoup parler, que les membres de la SDN se mettent à beaucoup parler de la faim dans le monde, et avec notamment en 1935 la création d'un comité technique de l'alimentation qui préfigure la FAO. Et une des activités de ce comité, c'est de produire des normes, de produire des normes à partir desquelles on peut juger d'un bon niveau d'alimentation. Et notamment, en 1935, on définit dans ce comité les normes de la ration optima, en termes caloriques, en termes de nutriments, de vitamines, de sels minéraux, etc. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. C'est depuis la fin du 19e siècle que la ration optima se met à faire l'objet d'une quantification avec les travaux d'un nutritionniste américain qui s'appelle Advater. Mais c'est la première fois que ces normes sont vraiment fixées comme telles dans une instance internationale et donc posées comme un outil de gouvernement, un outil aussi pour jouer ou pour agir sur les niveaux d'alimentation dans le monde. Et quand on regarde la manière dont ça joue à l'intérieur de la SDN, ça ne joue que sur des populations européennes ou de civilisations européennes. C'est-à-dire que la SDN définit un programme de recherche, mais qui ne concerne que des populations du monde civilisé, finalement, vu que c'est de ça dont il s'agit. Il y a une comparabilité qui s'ébauche, mais qui est cantonnée au monde civilisé. On compare que ce qui est comparable. Le deuxième espace où on est susceptible de parler de faim dans le monde ou de faim en Afrique, c'est les sociétés scientifiques internationales. Et il y a notamment une société scientifique spécialisée sur l'hygiène alimentaire qui organise en 1937 une première grande rencontre internationale sur l'alimentation dans le monde, où on fait un peu le bilan de tous les savoirs existants. À cette rencontre, il est très peu de questions d'Afrique. Il y a très peu de chiffres sur l'Afrique. Et quand on en parle, c'est surtout pour cette question de normes, finalement. Il y a des débats très intéressants qui sont posés sur l'universalité des normes alimentaires. Et je voudrais juste vous lire un extrait de cette conférence, de cette rencontre, avec une conférence intitulée « Race et alimentation » qui vous met un peu dans le contexte scientifique de l'époque. Donc c'est un physiologiste qui parle et il dit « Si les races ont probablement les mêmes besoins, il n'est pas certain qu'elles aient la même résistance aux troubles alimentaires. En effet, il semble se dégager de diverses observations médicales que les hommes de race blanche opposerait au développement de certaines carences une résistance plus grande que les individus de certaines races colorées. On affirme, par exemple, que les hommes blancs que l'on a soumis en même temps que des nègres à un régime déséquilibré deviennent plus difficilement pélagreux. Donc, le pélagre, c'est une forme d'avitaminose. Il semble que le noir soit lui-même plus sensible que le jaune. Ainsi s'expliquerait que certaines races, à diverses époques de leur histoire, ont pu faire la conquête du monde tandis que d'autres, au contraire, n'ont jamais pu jouer un rôle important parce qu'elles sont trop étroitement tributaires d'un certain mode d'alimentation. Donc ça se passe en 1937, et c'est assez intéressant vu qu'on pose finalement une relation entre différence d'alimentation et inégalité raciale, sans dire qu'il y a une différence de besoins alimentaires à ce moment-là. Vous verrez pourquoi c'est important de le noter. Et le troisième espace où on est susceptible de passer de parler de la faim en Afrique dans les années 30, c'est l'Afrique elle-même. Alors c'est difficile de faire un bilan de tous les savoirs existants en la matière. Retenez juste qu'ils sont très faibles et qu'il y a très peu de chiffres, tout simplement. Il y a très peu de chiffres et que finalement, quand les chiffres sont mobilisés, c'est pour des motifs de gouvernement très pragmatiques. C'est-à-dire que, notamment pour les Africains qui servent dans les armées coloniales ou pour les Africains qui font du travail obligatoire. Vous savez qu'à l'époque, donc, il y a un impôt qui passe par le travail obligatoire où des Africains sont obligés de travailler pour l'administration coloniale. Là, il y a un chiffrage de la ration. On chiffre pragmatiquement le repas à donner à ces militaires, à ces travailleurs. Et dans ce cas-là, les normes qui sont utilisées, très pragmatiquement, c'est les normes qui sont utilisées en Europe avec les mêmes seuils de minima caloriques, parce que tout simplement, c'est les seuls qui existent. On ne se pose pas la question de savoir si elles valent ou non pour les Noirs. Donc, juste pour conclure ce premier point, ce qu'il y a à retenir, c'est peu de savoir, peu de chiffres, et finalement aussi que quand des administrateurs coloniaux et des médecins mobilisent la question de la race et des besoins caloriques et du chiffre, dans ce cas-là, l'alimentation est souvent posée comme une cause d'une inégalité raciale. C'est-à-dire qu'on va dire que si les Noirs sont déficients, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont une mauvaise alimentation, ou si à l'intérieur des races noires, certaines races sont plus robustes, c'est par exemple parce qu'elles sont plus protéinées. Il y a un rapport de cause qui va de l'alimentation à l'inégalité raciale. On va voir que ça va s'inverser par la suite. Et justement, je passe à mon deuxième point, c'est ce que je voudrais montrer, c'est que dans l'après-guerre, donc, c'est vraiment la période où commence à émerger la notion de faim en Afrique. Alors d'abord, pourquoi ? L'après-guerre, c'est une période de profonde crise des légitimités coloniales. Une crise qui est à la fois impulsée par des acteurs internes et externes à l'Afrique. Les acteurs externes à l'Afrique, c'est notamment l'ONU, les nouvelles organisations internationales, qui devient une tribune anticoloniale. Et les acteurs internes à l'Afrique, c'est les acteurs sociaux. Quand on prend l'exemple de l'Afrique française, il y a beaucoup de grèves, de mouvements sociaux qui sont impulsés par des syndicats africains nouvellement créés. Et quand on essaye de lier, même s'il ne faut pas toujours lier, quelquefois ça ne marche pas, mais si on essaye de lier un nœud qui relie ces différentes contestations, finalement, c'est peut-être la contestation du différentialisme colonial. Ce que demandent l'ONU, notamment les orateurs africains ou indiens, l'un des devenus indépendantes qui parle à l'ONU, c'est que les Africains et les autres populations humaines soient jaugées à l'aune de mêmes normes, que ce soit en termes politiques, que ce soit en termes sociaux, que ce soit en termes économiques. Et ce que demandent les syndicats ouest-africains qui font grève, c'est aussi le fait que blanc et noir aient le même traitement, par exemple le même traitement salarial. À travail égal, salaire égal, c'est un des slogans qui revendiquent. Donc il y a vraiment cette idée de revendiquer une même norme, une norme commune. Et ça suppose de faire entrer les populations colonisées, finalement, dans un espace de comparabilité internationale d'où jusqu'alors elles étaient généralement exclues. Et l'une des réponses des administrations coloniales, c'est justement, par rapport à cette crise de légitimité, c'est de produire du bilan. C'est d'essayer de montrer la propension qu'a eu la colonisation à améliorer la condition de vie des populations colonisées. C'est vraiment dans cette époque-là, à cette époque-là, que cette problématique comptable du bilan colonial commence à se formaliser pour des mobiles politiques. Il y a eu des débats ultérieurs, c'est un autre sujet, sur cette problématique du bilan en 2005. Donc, ça crée notamment des effets sur les savoirs alimentaires. Il y a des instituts, beaucoup d'instituts d'alimentation, qui sont créés dans les différents empires coloniaux. Donc ça, c'est pour le cadre général. Et ça provoque de manière assez surprenante une résurgence du paradigme de la race. Ce que je vais vous montrer maintenant pour finir en deux points. D'abord, si on regarde à l'échelle des organisations internationales, il y a deux activités qui sont posées. D'abord, une activité des savoirs existants. On se met à la fois à susciter des savoirs et à les comparer, où l'Afrique commence à devenir un continent à problème. Commence tout juste. Hein. Le premier rapport sur l'alimentation dans le monde de la FAO, l'Afrique est quand même posée comme le grenier agricole de demain. Donc, on n'est pas encore dans les mêmes schémas mentaux qu'aujourd'hui. Et la seconde activité, c'est une activité, encore une fois, de production de normes, avec en 1949 la création d'un comité des besoins en calories qui revisite les normes établies par la SDN avant la guerre et surtout qui éprouve leur applicabilité à l'ensemble des continents, et notamment à l'Afrique et à l'Asie. Et ce qui est frappant, c'est de voir dans les discussions très concrètes qui se passent à la FAO juste après 1945, des résistances qui sont exprimées par des délégations de pays coloniales contre cette volonté de standardisation et des résistances qui mobilisent le paradigme racial pour dire mais est-ce que vraiment on peut comparer, est-ce que ça marche la comparaison. Et là je cite juste les propos d'un médecin colonial français qui avait participé à une délégation à la FAO qui dit il est inopportun d'appliquer à certaines populations les résultats d'études sur la nutrition concernant la race blanche en pays tempéré. Il est plus logique d'adopter des normes régionales, voire locales, plutôt que des normes générales qui s'éloignent du réel, parce que l'utilisation faite par des organismes racialement dissemblables des produits n'est pas forcément la même. Donc il y a vraiment une mobilisation politique du concept de race à ce moment-là, et qui ressurgit, alors que le concept n'était pas trop présent à la SDN dans les années 30. Et dernier point, comment maintenant ça se traduit localement ? En 1949, toutes les délégations des différentes puissances coloniales positionnées en Afrique se retrouvent au Cameroun, à Tchang, pour discuter justement de cette question alimentaire et notamment de discuter de toutes les recherches qui ont été menées depuis 1945. Et quand on regarde les débats, quelque chose qui est résurgent, c'est les besoins physiologiques du noir. Donc je le cite tel que exprimé. Par exemple, on retrouve à la fois un discours nutritionnel très pointu, c'est vraiment des scientifiques hein, qui sont là, des gens qui connaissent leur sujet en termes de comment marche un organisme humain et quels sont les différents nutriments, ils ont une connaissance très pointue, et par ailleurs un questionnement sur ce que sont les besoins de l'organisme de noir en protéines ou en vitamines. Et cette question, elle traverse littéralement les recherches nutritionnelles menées dans certains pays africains dans l'immédiat après-guerre. Alors plus ou moins selon les différentes puissances coloniales, mais je ne peux pas trop détailler. Et je vais juste prendre un exemple parlant, le cas de l'Afrique française. Les premières recherches sont menées par un organisme qui s'appelle la Mission Anthropologique, donc qui compte essentiellement des médecins et des pharmaciens coloniaux, qui est dirigé par un ancien médecin colonial qui s'est reconverti dans l'anthropologie physique dans les années 30. Alors c'est intéressant parce que l'anthropologie physique, pour des raisons que vous imaginez, est complètement en perte de crédibilité en métropole à la même époque, mais retrouve un regain d'intérêt dans les colonies. Et c'est sous la responsabilité de ce monsieur, qui s'appelle Pallès, que sont établis les premiers savoirs quantitatifs sur l'alimentation en Afrique française dans la deuxième partie des années 40. Et quand je vous dis que ces recherches sont traversées par le paradigme racial, c'est-à-dire que pour chaque nutriment, par exemple la protéine, chaque sel minéral, de manière assez précise, Pallès pose l'hypothèse d'un terminisme raciologique, à savoir que peut-être qu'il y a carence, mais elles ne sont pas d'origine alimentaire, mais d'origine raciale, pour finalement l'écarter au cas par cas et participer à la déconstruction de la notion de race. Une autre démarche, par exemple, c'est de classer les différentes populations en termes de degré de négritisation. Il y a des populations plus ou moins nègres dans les critères de l'époque, et de comparer la résurgence des pathologies alimentaires en fonction de ce degré de négritisation. Donc il n'y a pas si longtemps finalement qu'on se pose ces questions-là. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la résurgence du paradigme racial, qui est assez paradoxal parce que c'est au moment où se met en place un colonialisme supposé plus libéral. On voit bien que ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ce paradigme racial est mobilisé au moment où ils font comparer, comme justement une résistance à cette optique de comparabilité qui permet de jauger des situations sociales des populations africaines à l'aune de normes commune. Voilà, donc j'espère vous avoir montré donc les tensions qu'il peut y avoir entre le chiffre et la race. Alors j'ai pris le terme des inégalités alimentaires, mais on peut faire, en faisant l'histoire du taux de mortalité infantile, en faisant l'histoire du PNB par habitant, le décliner sur pas mal de domaines différents. C'est finalement ces indicateurs qui ont aussi contribuer à créer l'idée d'un continuum dans le monde, d'un continuum commun où on compare les choses et à dénaturaliser les inégalités, à défaut évidemment d'y mettre fin. Et pour finir, juste 2 minutes, peut-être, je ne sais pas, je crois que ça fait un quart d'heure là.
C'est pas mal, oui.
Ok. Donc, je voudrais juste ajouter 2 éléments sur ce que je n'ai pas voulu dire. D'abord, je n'ai pas raconté une histoire des progrès des savoirs. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai dit. On voit bien que le paradigme racial, finalement, il intervient peu dans les savoirs dans les années 30, et les médecins dans les années 40 se mettent à se poser des questions raciologiques que leurs prédécesseurs ne se posaient pas dans les années 30, parce que ça n'avait aucune utilité politique de se poser ce genre de questions. Et ça me semble important d'insister là-dessus, sachant que, là, c'est plus un débat d'historien, mais que ce paradigme de la race, il est parfois un peu, peut-être, ontologisé. Oula, c'est dur enfin de dire un mot comme ça. Donc vous voyez ce que je veux dire. Dans les études coloniales, c'est-à-dire posé comme voilà, un paramètre qui est là et qui ne bouge pas trop. Là, on voit que c'est un peu plus compliqué, tout simplement, qui s'efface, qu'il a différentes utilités, que parler de race dans les années 30, ça n'a pas le même sens que de parler de race dans les années 40, et que les choses sont toujours un peu plus compliquées que ça quand on les confronte au réel et à la poussière du carton d'archives dont je parlais hier, justement. Et deuxième chose que j'ai pas voulu dire, j'ai pas voulu raconter une histoire dans laquelle le savoir a un statut causal. Et ça me semble une thématique assez importante, peut-être par rapport à l'observatoire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait des nouvelles recherches nutritionnelles en Afrique ou qu'on a prouvé que la physiologie humaine était une en matière d'alimentation, qu'on s'est dit, ah bah, il y a la faim dans le monde. Il n'y a pas d'histoire de découverte. Il y a d'abord des configurations politiques qui évoluent, une crise de légitimité coloniale, et de là, on se met à comparer. Il faut vraiment le poser comme un processus politique et pas comme un processus de savoir, en fait. À mon sens, c'est quelque chose qui est assez important. Et la race, dans mon histoire, ce n'est pas un fait de savoir, c'est un biais d'expression d'inégalité qui empêche la comparaison. C'est un biais d'expression d'une inégalité politique qui est utilisée comme une résistance à la comparaison. Et troisième chose, j'avais dit deux, mais une toute dernière, c'est que c'est très basique, mais le savoir n'induit pas le changement. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 50, globalement, le chiffre a gagné contre la race dans cette histoire de savoir contre la faim dans le monde. Et and so what, la faim est toujours là. C'est-à-dire que finalement, tout ce que ça change, c'est de poser la possibilité du changement, mais je ne vais pas le dire, c'est trop à la mode comme mot, la possibilité de transformation profonde, mais juste poser la possibilité de transformation. Finalement, ce que sont les chiffres dans mon histoire, c'est des nouvelles armes politiques mises à disposition de gouvernements, de techniques de gouvernement, mais aussi éventuellement de syndicats, d'acteurs politiques qui peuvent, des syndicats africains qui se mettent à la fin des années 50 à dire, mais ça fait depuis 60 ans que la colonisation prétend améliorer les conditions de vie d'alimentation, et regardez les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ce n'est juste que des armes statistiques ou des outils de gouvernement qui changent la configuration de poser la faim dans le monde à défaut d'y mettre fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Mm. Merci beaucoup, Vincent. Alors peut-être que, avant de passer à l'autre intervention, s'il y a une ou deux questions rapides dans la salle sur la présentation. Ouais. Non, mais on va.
Oui, on a plutôt tendance à.
Oui, une salle, mais juste.
À garder les questions plutôt pour la fin, mais. Si peut-être par rapport à la remarque que faisait tout à l'heure Cédric sur la question de l'ensemble de la table, je pense que l'intervention de Vincent vient de clarifier les choses pour toi. L'idée, c'est effectivement de bien comprendre que l'inégalité est une notion relative, que ça pose la question du rapport de l'autre au lointain, de la différence, par exemple, au sein même de la catégorie femme, de la question du lointain dans le proche quand on pense à la banlieue, du lointain quand il nous arrive sous la figure du migrant, etc. Donc il y a la question de la comparabilité qui est extrêmement importante, et ce qui nous renvoie aussi aux discussions qu'on a pu avoir hier sur la littérature, sur la production d'un langage commun, qui permettrait justement la possibilité d'un dialogue sur la question des inégalités, quelle priorité accorder à quelle inégalité. Ça, c'est un vrai débat extrêmement compliqué. Très politique.
Merci. Donc, on va enchaîner avec
moi aussi, un grand merci à l'organisatrice et à l'organisateur de ce colloque et de m'avoir invitée à penser et à observer avec vous les inégalités. Juste un petit retour sur ce qui s'est dit hier. Finalement, à part d'Olympe, il a été très peu question des femmes, alors même que la figure du pauvre, la figure de l'ouvrier, la figure du sans-papier et les figures de l'exclusion en général ont un sexe qui mérite de s'intéresser aux figures féminines de l'exclusion, qui prennent sens dans des rapports qui vont articuler le genre, la classe, la race, mais aussi l'âge. Donc c'est autour de cette question du genre que j'aimerais discuter aujourd'hui. En parlant, alors j'ai un peu changé mon intervention parce que j'ai d'abord été dans un atelier comparé, après dans un atelier représentation, maintenant dans cet atelier observer les inégalités. Et donc je voudrais parler de la question de l'observation des inégalités de genre en matière de déviance. Alors quand on est sociologue de la déviance comme moi, quand on travaille sur un objet, on commence par regarder les chiffres, là aussi, qui sont disponibles. Et les chiffres disponibles, c'est ceux que nous fournissent les institutions pénales. Et ici, dès qu'on regarde ça, apparaît très clairement une inégalité, cette fois une inégalité arithmétique, hein, puisque les femmes sont sous-représentées tout au long de la chaîne pénale. Alors avec mes étudiants, je m'amuse à faire des sondages, enfin j'essaye de leur faire deviner les chiffres. Elles sont en fait 14% des individus poursuivis par la police et la gendarmerie. Elles sont 9% parmi les individus traduits en justice. Et elles sont seulement 4%, hein, 3,6% à l'heure actuelle, des individus incarcérés dans les prisons françaises. Si bien que, alors que les espaces sociaux sont aujourd'hui de plus en plus mixtes, eh bien, on est là face à une dissymétrie sexuelle très nette, hein, et le sexe apparaît comme la catégorie, la variable la plus discriminante en matière de pénalité. Donc apparemment marginal, hein, ce chiffre-là, au point que les sociologues en France, en tout cas, ne s'y sont jamais intéressés. Marginal, je voudrais montrer au contraire combien cette dissymétrie mérite d'être pensée. En reprenant cette idée de Foucault, qu'interroger la marge est un moyen d'interroger le centre, et donc chercher à rendre compte de cette inégalité statistique, hein, c'est interroger le genre du contrôle social, mais aussi de l'ordre social. La question, c'est celle alors de savoir comment, d'un point de vue méthodologique, hein, sociologique, rendre compte de cette dissymétrie sans en référer à une hypothétique nature, hein, qui serait douce et docile des femmes, qui viendrait expliquer qu'elles commettent moins de délits que les hommes, hein, les statistiques pénales venant enregistrer finalement cette différence de nature. La question, à mon sens, est à la fois d'ordre méthodologique et même épistémologique. Hein, concrètement, comment faire pour observer cette inégalité? À quelle sociologie de la déviance se référer? Mais c'est aussi une question politique, hein, c'est-à-dire quel sens donner à cette inégalité arithmétique, les deux questions étant étroitement liées. Puisque, en partant, c'est ce que je voudrais montrer, de cette inégalité entre hommes et femmes dans le traitement de la délinquance, eh bien, on en vient à considérer la police du genre, police qui va produire des carrières féminines et masculines de la déviance, au point de les rendre, et on touche là aussi à des choses que Vincent soulignait, en tout cas, les rendre au moins en apparence incomparables. Et c'est ce caractère incomparable, hein, parce qu'asymétrique, qui va venir entériner une différence de sexe, mais aussi des différences très fortes et des inégalités entre les femmes. Comment donc, hein, rendre compte de cette dissymétrie sexuelle qui traverse la pénalité ? Alors, une première façon, hein, c'est ce qu'on fait quand on est une sociologue critique de la déviance, eh bien, ça va être d'interroger cette dissymétrie, à analyser, hein, de façon critique les chiffres que nous fournissent les instances pénales. D'abord, en réinscrivant, et les sociologues ne le font pas toujours, alors que ça est un point en particulier quand on travaille sur le genre, et je me réfère aux travaux de John Scott là-dessus, qui me paraît important, de réinscrire ces chiffres dans l'histoire, dans la longue durée, en comparant, c'est extrêmement compliqué, hein, je ne m'atteindrai pas là-dessus, mais en tout cas en comparant les données statistiques d'hier et d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit que oui, les femmes ont toujours été sous-représentées des statistiques pénales, mais qu'elles ont été, que cette sous-représentation a été plus que relative, hein, puisqu'elles ont été beaucoup plus nombreuses au siècle dernier, à la fois à être arrêtées, à être traduites en justice, mais aussi à être incarcérées au 18e. Elles représentaient un tiers, hein, des individus incarcérés, et on a même au 19e un savoir criminologique, hein, qui va chercher à comparer là, très nettement la délinquance des hommes et des femmes. Je songe évidemment aux travaux de Lombroso et Ferry, ce magnifique livre qui s'appelle « La criminelle et la prostituée ». Et en fait, c'est au moment de la mise en place de la pénalité moderne, hein, que les femmes vont sortir des statistiques pénales, pour plusieurs raisons. Hein, d'abord parce qu'on va dépénaliser ou que certains délits féminins vont disparaître. Au 19e, par exemple, le délit de fagot. C'est vrai aussi, évidemment, de la pénalisation de l'IVG. Mais aussi parce que se mettent en place, c'est une hypothèse difficile à travailler, mais je vais vous expliquer après pourquoi, parce que se met en place l'État social qui va chercher à protéger de très près les femmes et en particulier les mères. On a donc une disparition historique de la délinquance féminine, et le détour par l'histoire permet d'observer que l'inégalité de départ en matière de délinquance constatée n'a rien d'immuable et ne saurait renvoyer là encore à une différence de nature entre hommes et femmes. Second moyen d'interroger notre inégalité de départ, ça va consister à questionner là encore ces chiffres de façon critique, en se disant, très classique, que ces chiffres ne sont pas tant l'expression d'une délinquance réelle, ne nous disent rien de la délinquance réelle, mais nous informent davantage sur l'activité de ces services, que ce soit la police, la gendarmerie ou la justice. Et c'est finalement faire l'hypothèse que derrière ces données statistiques, eh bien, se cacherait finalement un traitement policier et un traitement judiciaire différent selon les sexes des individus contrôlés, surveillés, jugés. Alors c'est une hypothèse qui a été formulée dès les années 50, souvent sous un jour très antiféministe, en disant que la justice pénale réserverait un sort préférentiel à l'égard des femmes. Les féministes parleront plus tard de traitement paternaliste, et donc c'est ce que vont chercher à travailler les études essentiellement nord-américaines de sentencing, à la fois au plan quantitatif et au plan qualitatif. Alors, il y a des conclusions assez contradictoires. Il n'empêche que, effectivement, on observe qu'en partie, les femmes échappent à ces contrôles. Au niveau policier, par exemple, les policiers n'ayant pas en tête qu'un délinquant peut être une délinquante, les femmes échappent, effectivement, davantage au contrôle. Au niveau judiciaire, pour le cas français, on sait aussi que hommes et femmes ne sont pas traités de la même façon, notamment au niveau des sanctions, les femmes échappant davantage au risque d'incarcération. Et on pourrait étendre finalement ce genre de réflexion à l'école, par exemple, où les dispositifs disciplinaires, de fait, sanctionnent davantage les garçons dans leur forme formelle. Alors, faut-il y voir une injustice, hein ? C'est-à-dire qu'à ce stade, on pourrait se dire, ben voilà, on est là face à une inégalité en faveur des femmes, et donc une injustice faite aux hommes, davantage contrôlée, davantage sanctionnée. Sauf que ce serait, à mon sens, hein, ne pas prendre la mesure de ce sous-enregistrement, de cette invisibilisation de la délinquance féminine, et il faut, et j'en viens là à mon deuxième point, aller plus loin dans la réflexion méthodologique en posant deux questions. La première, elle consiste à se sortir du pénal, hein, à casser avec ce pénalocentrisme qui est bien souvent le fait de la sociologie de la déviance française, et à se demander finalement bien, si les femmes délinquantes ou violentes ne sont pas en prison, où est-ce qu'elles sont ? Et c'est chercher finalement à rendre compte, c'est compliqué, de ce chiffre noir de la délinquance féminine, de cette part invisible, invisibilisée, et donc il faut déplacer la focale. L'enjeu méthodologique est de taille, hein, c'est-à-dire que, pour vous donner des exemples, le cas de l'inceste féminin au XIXe siècle rencontre, et je m'appuie là sur les travaux de Fabienne Giuliani qui a travaillé là-dessus, rencontre de ce déplacement que le sociologue ou l'historien est obligé de faire. Fabienne Giuliani montre par exemple que les archives judiciaires au XIXe siècle n'enregistrent que les viols masculins quand il s'agit d'inceste, donnant finalement l'illusion et construisant l'inceste comme essentiellement masculin. Et donc pour trouver des femmes incestueuses, il lui a fallu dépouiller les dossiers d'attentats à la pudeur. Signe, hein, de cette difficulté à penser la symétrie entre les sexes en matière de violence sexuelle et finalement faisant de l'inceste féminin, je reprends son terme, un impossible crime. Plus largement, c'est aussi à cette question que se sont heurtés, hein, nombre de chercheuses féministes en histoire quand il s'est agi de travailler sur la participation des femmes aux événements politiques violents et aux émeutes. Hein, les archives policières faisant peu mention des femmes, il a fallu un travail extrêmement fin, hein, il a fallu lire entre les lignes afin d'interroger les sources pour faire émerger la participation féminine à ces violences. Ces processus, hein, de requalification, d'invisibilisation, pardon, vont conduire, et là je parle en sociologue puisque ça a été mon travail de thèse, à chercher à exhumer d'autres espaces du contrôle de thèse, le lapsus est magnifique. Non, il n'y avait pas d'historien pour me dire à quel point c'était. En tout cas, il a fallu, ma thèse, hein, travailler, je suis partie de la prison pour ensuite décliner d'autres espaces du contrôle social des femmes. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, de faire. Et donc, j'ai exhumé, et je ne suis pas la seule, hein, à d'autres espaces du contrôle social, en apparence moins répressifs, qui sont des espaces de protection des femmes, mais qui sont aussi des espaces de surveillance très, 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 très efficaces, si bien que ce bénéfice observé au départ est en fait un bénéfice sous contrainte. Je vais vous donner un exemple que j'ai travaillé dans ma thèse, justement, celui du traitement de la délinquance juvénile, hein, et la façon dont le sexe des justiciables, enfin des mineurs, va influer la décision des juges des enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, c'est intéressant, la justice des mineurs, parce qu'on est là face à un espace juridique poreux, le juge des enfants ayant à la fois une casquette en matière de droit civil et de droit pénal, puisqu'il a en charge à la fois l'enfance délinquante et l'enfance en danger, si bien qu'il lui arrive, enfin, il lui arrivait, puisque les transformations de la justice des mineurs ne le permettent plus tout à fait, mais il lui arrivait, pour un cas de délinquance, d'ouvrir aussi un dossier d'enfance en danger, en même temps que parfois, on ouvre un dossier civil, et on n'ouvre rien au pénal. C'est-à-dire qu'on ne poursuit pas au pénal, mais on envoie du côté de l'assistance éducative en estimant que le délit est le signe en fait, d'un enfant en danger. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe que les filles, justement, parce qu'avant tout considérées comme des victimes, victimes des hommes, victimes de leur milieu familial, vont faire l'objet d'un suivi, moins d'un suivi au pénal qu'un suivi en assistance éducative. Et donc, elles disparaissent de fait, hein, des statistiques pénales sur la délinquance juvénile. Mais là encore, il va falloir déplacer la focale, c'est-à-dire interroger la porosité du droit pour aller retrouver ces filles au civil. Hein. Et c'est un dépouillement des archives au civil qui permet de les faire apparaître. Pour autant, ça ne signifie en rien, hein, qu'elles seraient moins surveillées. Au contraire, c'est au nom de leur protection parce que leur délinquance est psychologisée et naturalisée, qu'elles vont faire l'objet d'un contrôle plus soutenu de leur éducation, de leur psychisme et de leur sexualité, hein, qui va viser à faire ou à refaire des filles en adéquation avec leur sexe. De la même manière, les bonnes mères qui échappent à la rigueur des tribunaux, qui éventuellement vont sortir plus vite de prison, eh bien, vont faire l'objet d'un contrôle accru dans d'autres sphères du droit, notamment celle du droit social et du droit civil, quand ils touchent à la famille et à la protection sociale. Donc, d'un point de vue méthodologique, cela suppose d'oser des comparaisons improbables, c'est-à-dire de faire l'hypothèse que finalement, pour une femme, le placement de son enfant a quelque chose à voir avec une mesure d'incarcération. On voit déjà se mettre en place hein, cette police du genre, je ne sais pas combien hein, ça va, qui va passer par des dispositifs différents de contrôle social et qui va participer du processus de différenciation des sexes. L'invisibilisation est du coup moins un bénéfice qui serait accordé aux femmes que le résultat et le ressort du processus de différenciation sur lequel repose le genre. On en arrive finalement à une seconde question, celle de savoir qui a intérêt à sous-enregistrer, invisibiliser ou requalifier la délinquance féminine. Lorsqu'on protège les femmes de la pénalité, mais aussi finalement en les écartant des études sur la déviance, eh bien, on contribue à reproduire l'ordre social, qui est aussi un ordre du genre. Derrière les femmes, c'est en fait la division sexuelle du travail et les mères qu'on protège. Je vous donne un exemple, celui travaillé par Jean-Raphaël Bourges sur la loi du silence hein, qui règne autour de la pédophilie féminine. Pourquoi, il pose cette question, pourquoi est-il si peu question des femmes abusant sexuellement d'enfants dans les médias? Et la réponse, hein, c'est que ce déni de responsabilité permet de renforcer finalement les normes de genre en préservant cet idéal féminin de la maternité et en entretenant l'idée d'une inaptitude fondamentale des hommes à prendre en charge les enfants hein, au nom du spectre de cette pédophilie masculine. Et on voit bien là comment hein, le déni de participation des femmes à ce type de violence va venir conforter leur assignation au métier du care. Dans la violence politique, et je ne vais pas m'attarder parce que j'ai plus beaucoup de temps, cette non-reconnaissance des femmes à des phénomènes violents conduit évidemment à permettre de les maintenir, hein, de les reléguer en tant que non-citoyennes ou citoyennes paradoxales. L'exemple le plus frappant est celui de la façon dont David va peindre Charlotte Corday, qui a assassiné Marat, puisque Guillaume Mazot montre comment, dans ce tableau, Corday disparaît. Il ne reste plus que Marat dans sa baignoire et toute trace de l'événement politique hein, d'une femme qui assassine un homme a disparu. Alors pour conclure, je vais juste insister sur deux points. La conclusion n'est pas écrite. Le premier est de rendre visible la façon dont une inégalité arithmétique cache, hein, et ici en matière de déviance, cache ce travail de différenciation à l'œuvre, de partage des hommes et des femmes en deux classes distinctes, qui oblige à mesurer la transversalité du genre, ce continuum hein, que ont bien pu montrer les chercheuses féministes, et qui aboutit finalement, et je rejoins Vincent sur ce point, c'est-à-dire que le genre est un biais qui empêche la comparaison, et on voit bien comment en matière de déviance, effectivement, on est dans la construction de quelque chose d'incomparable. En même temps que, et c'est mon deuxième point, travailler, je l'ai fait très rapidement là, mais en tout cas travailler sur cette question oblige à saisir la construction d'identité virtuelle hein, de ce qu'est une femme et ce qu'est un homme, et évidemment conduit à déconstruire là aussi une classe homogène qui serait le groupe des femmes et une classe homogène qui serait le groupe des hommes. C'est-à-dire que c'est quand les femmes ont une identité sociale, et là je reprends les termes de Goffman, qui ne correspond pas à l'identité virtuelle, hein, ce qui est attendu de leur sexe, eh bien évidemment la rigueur là est de mise. Hein, et on va voir apparaître des figures féminines, cette fois de la déviance, qui sont surcriminalisées. C'est le cas en particulier de cette figure de la mauvaise mère, hein, extrêmement, extrêmement mal perçue dans les tribunaux. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Colline. Donc, du coup, on posera les questions à la fin. Et donc, on va enchaîner avec Wilfried Cerisier. Excusez-moi, il faut juste mettre la présentation.
Non, en attendant. Donc, oui, je remercie les organisateurs et leur accueil chaleureux et généreux. Alors, je suis donc doctorant à l'Institut français de géopolitique à Paris 8, donc Saint-Denis, juste à l'ouest de la Seine-Saint-Denis. J'étudie en fait les évolutions proprement géopolitiques de la Seine-Saint-Denis depuis 1998. 1998, pourquoi ? Parce que c'est l'implantation du Stade de France, un changement majeur. C'est tout au PowerPoint. Vas-y, descend. Attends, je vais me mettre à ta place.
Moi, je l'ai vu.
Hein. Tu l'as vu ? C'est par un D. Attends, PowerPoint. Oui, c'est ça. Vous allez voir toute ma vie, je suis désolé. Terrible, hein.
C'est ça ? C'est ça ou pas ?
Oui, c'est celui-ci.
Modifié à désordre.
Oui, c'est ça. Je me mets à ta place pour...
Ouais.
Hop, le F5, et c'est bon. Oui, donc Je recommence, désolé. Donc je suis doctorant sur les questions d'évolution géopolitique de la Seine-Saint-Denis. Donc je m'intéresse beaucoup aux stratégies politiques des acteurs et évidemment les mutations, au regard des mutations d'aménagement du territoire et évidemment des évolutions sociologiques massives. Donc le titre de mon exposé, c'est « Discrimination territoriale et cumul des inégalités en Seine-Saint-Denis ». Donc, on a dit de la Seine-Saint-Denis qu'elle était la grande gagnante de ce qu'on appelle le Grand Paris. Donc, non seulement par le nombre d'infrastructures qui allaient y être implantées, une trentaine de gares, le siège de la Société du Grand Paris qui va aménager la métropole francilienne, des pôles de développement majeurs. Le Grand Paris de l'État, d'ailleurs, a été relancé à Roissy, juste aux portes de la Seine-Saint-Denis, en juin 2007, par l'ancien président. Paris Métropole, l'association de 200 collectivités territoriales de la région francilienne, a été lancée à Saint-Denis-Aubervilliers, puis inaugurée officiellement à Clichy-sous-Bois, ville que vous connaissez bien, au moins par les médias. Mais est-ce que ces symboles institutionnels vont se traduire dans les nouveaux projets par plus de solidarité territoriale et de justice sociale ? Alors, qu'est-ce que la Seine-Saint-Denis ? Alors, c'est certes 1,5 million d'habitants dans la région la plus riche d'Europe. Pardon. C'est le territoire en banlieue nord de la ville Lumière qui est objet de stigmates aux échelles à la fois nationales et régionales aussi, il faut le dire. Voire international, je fais référence à la couverture médiatique des émeutes de novembre 2005 par CNN. Donc il fut longtemps la terre de la banlieue rouge, la terre du récit socialiste, duquel une société ouvrière se construisait grâce à une forte industrialisation et à l'encadrement du Parti communiste et des organisations satellitaires. Le territoire de la Seine-Saint-Denis est emblématique des banlieues françaises et des crises qui le secouent, notamment après novembre 2005. Il est remarquable que de la Seine-Saint-Denis émergent des marqueurs identitaires assez forts qui composeraient une quasi-identité territoriale. Je verrai ça dans ma seconde partie. On sait l'ampleur des inégalités, le cumul des handicaps. Enfin, on croit le savoir, on le croit. Et on croit savoir pourquoi. Oui, mais justement alors, parce que la somme des diagnostics de différentes administrations et organismes s'empile, mais la situation d'injustice et des injustices criantes s'ajoute. Les routines administratives et intellectuelles montreraient comment une évidence naturelle se cumule là, mais est-ce que cela n'empêche pas de le penser, se cumule comme tel ? À l'heure des transformations, des stratifications sociales et des territoires urbains dans le tissu métropolitain, un tel territoire interroge les reconfigurations urbaines contemporaines et leurs effets les plus paradoxaux, à tout niveau. La Seine-Saint-Denis est bien un de ces territoires sur lequel de nouvelles égalités se cumulent à d'anciennes inégalités. Une telle concentration, que ce soit par les dépenses directes et indirectes, entraîne la faillite d'une collectivité locale. Au-delà des constats et des évidences construites, il y a en Seine-Saint-Denis des inégalités profondes dont la concentration est proprement injuste. La Seine-Saint-Denis accumule donc des indicateurs négatifs. Accès à l'emploi, niveau de revenus, niveau de santé, scolarisation, sécurité publique, etc. Cette complexité stigmatisante est difficile à dire. Au-delà d'en sentir l'injustice. D'une part, il s'agirait d'interroger le seuil à partir duquel un cumul des inégalités est injuste, qu'il soit vécu et analysable comme tel. Il s'agira aussi de démêler les chevaux inextricables et les fils enchevêtrés qui finissent par s'identifier à un territoire. Néanmoins, le chercheur est confronté à des interrogations méthodologiques et politiques, voire éthiques. Comment montrer le cumul des inégalités dans la multiplicité des statistiques qui ont aussi des sources hétérogènes? En plus, avec l'handicap que j'ai, c'est-à-dire que je ne suis pas statisticien, je vous le dis tout de suite. Par ailleurs, si dire n'est pas indexé, comment parler de la Seine-Saint-Denis, des inégalités qui y règnent, qui la minent, qui la traversent sans la stigmatiser? Comment en parler sans surenchère ni injustice supplémentaire? Alors pourquoi une telle concentration? J'essaierai d'apporter quelques explications. Y a-t-il des stratégies ségrégatives, à proprement parler? Est-ce qu'il y a une coproduction de discrimination dite territoriale? La stigmatisation territoriale s'est élaborée par de nombreuses voies, par une accumulation de stratégies d'acteurs et de leur représentation à différentes échelles, que ce soit l'échelle du quartier, l'échelle des villes, des départements, de la région. Le territoire a été construit comme étant à part de la République, même s'il est aux portes de la capitale de la nation. Quelques mois après les émeutes de novembre 2005, un rapport sénatorial est sorti. Et ce rapport préconisait, alors il est aussi entre une loi dérogatoire avec un plan d'urgence, il n'est jamais sorti, et un secrétariat d'État dédié. Donc j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il s'agit d'une situation un peu improbable. D'autre part, en 1998, après 2 mois de mobilisation d'enseignants, d'élus et de parents d'élèves, la Seine-Saint-Denis avait obtenu 3000 postes supplémentaires, ce qui est là aussi une situation un petit peu exceptionnelle au regard de la doctrine de l'égalité de traitement dans la République française. La Seine-Saint-Denis ne met-elle pas à l'épreuve la capacité de l'État à créer de l'égalité territoriale? J'articulerai mon propos en 2 temps. D'une part, en quoi peut-on parler de cumul des inégalités? En second point, quelles sont les représentations de ce territoire qui découlent de cette situation de cumul? Alors, en quoi la Seine-Saint-Denis cumule-t-elle des inégalités? Je ne suis pas statisticien, je vous le rassure. Donc, le territoire de la banlieue du Nord parisien est traversé par des dynamiques ségrégatives et discriminatoires de différentes natures. Non seulement elles sont variées, mais elles se croisent et se concentrent spatialement. Comment les observer? Il faudrait aussi ajouter que la Seine-Saint-Denis n'est pas massive, que la ségrégation socio-spatiale dont elle est la preuve se reproduit en son sein même. Il y a des inégalités qui se concentrent à l'ouest du département et des inégalités un peu moindres à l'est du département. Donc j'essaie de balayer un certain nombre d'inégalités. Alors là, il fallait choisir avec un certain nombre d'indicateurs de base, fournis évidemment par l'appareil statistique national, l'INSEE, mais aussi par les différents organismes, dont l'Éducation nationale ou bien l'Observatoire de la santé en Île-de-France. Alors, j'aurais pu aussi choisir comme typologie ce qu'ont fait les sociologues de la France invisible. J'aurais pu évidemment accumuler les indicateurs concernant les précarisés, les discriminés, les disparus, les relogés, etc. etc. J'ai choisi un autre procédé. Donc, pour les inégalités, j'ai plutôt préféré présenter un slide plutôt que d'écrire à chaque fois. Donc, tout d'abord, évidemment, les inégalités de revenus. quelques mots que j'ai pris sur l'Observatoire des inégalités. Sans le citer, bien sûr. Entre 2001 et 2008, le revenu médian par personne n'a évolué que de 145 euros dans le département de référence. Et c'était l'évolution la plus faible de France. En 2009, le revenu médian est le plus faible de France métropolitaine. Ça exclut évidemment les dom-toms. La part des ménages non imposables est en 2010 de 48%, ce qui est une pression fiscale accrue sur les dépenses de politique publique. En 2002, par exemple, c'était le 85e département sur la question des revenus. Et en 2008, une analyse de l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, notait que le niveau de vie médian des Parisiens dépasse de 63% celui des séquano-denisiens. 63%. Voilà. Le taux de pauvreté, évidemment, est assez élevé. Donc, concernant le taux de pauvreté moyen, les revenus inférieurs au seuil de pauvreté, le niveau de vie médian des personnes sous le seuil de pauvreté est un des plus bas de France, avec près de 9 000 euros annuels. La part de la population couverte par le RSA est deux fois supérieure à la moyenne nationale, en 2011, ce qui aussi accrut les dépenses publiques. Donc il contient une majorité de communes où la population couverte est supérieure à 7,5%, donc, ce qui crée des dépenses de 775 euros par habitant contre une moyenne nationale de 545 euros. Évidemment, il y a aussi des inégalités liées à la question de l'emploi. Évidemment, le taux de chômage est énorme. Le taux de chômage, notamment des jeunes, des 15-34 ans. Et pourquoi il est important, ce taux de chômage ? Enfin, pourquoi il est significatif ? C'est que le département de la Seine-Saint-Denis est un des plus jeunes de France. Voilà, donc ce qui contribue aux ségrégations assez importantes. Il y a eu une analyse de l'INSEE, justement, qui parlait de l'insertion des jeunes séquano-dionysiens. Et de manière tout à fait statistique, froide, argumentée et raisonnée, l'analyse terminait par une insertion plutôt réussie pour les jeunes ayant quitté la Seine-Saint-Denis. Voilà. Étonnamment, il y a aussi des inégalités des salariés de Seine-Saint-Denis. Il y a toujours 3 points de moyenne d'écart par rapport à la moyenne régionale. Alors, autre type d'inégalité, les inégalités scolaires. Alors, je rappelle, chose importante, 3000 postes supplémentaires en 1998. Évidemment, 10 ans après, la RGPP, les suppressions de postes que vous savez, il n'y a plus d'heures Seine-Saint-Denis spécifiques, il n'y a plus 3000 postes de plus. Par contre, les écarts restent. Donc, évidemment, et ça, ce sont des descriptions de l'éducation nationale, une surreprésentation des élèves issus des catégories défavorisées. C'est une moyenne départementale, mais évidemment, ça s'accentue à l'ouest de la Seine-Saint-Denis. Une sous-représentation des classes moyennes, donc une faiblesse de ce qu'on appelle la mixité sociale. 8% des élèves ont des retards importants à l'entrée de la 6e et 25% des jeunes ont quitté l'éducation nationale sans diplôme, 2% à Paris. Donc 7% des enfants de moins de 3 ans sont scolarisés, dans le Morbihan c'est près de 80%, voilà. Il y a aussi, et c'est significatif, un dysfonctionnement au sein de l'éducation nationale même, à savoir qu'il y a la part des enseignants non titulaires la plus forte, et de même la part des enseignants de plus de 50 ans qui est la plus faible. Et là il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser les enseignants, mais bien un système qui permet une rotation assez forte des enseignants. Voilà. D'accord. Alors, je voulais balayer aussi la question des inégalités sociales de santé, assez massives aussi. Des inégalités d'accès aux services publics, donc la question de la police, avec une, évidemment, vous connaissez au moins dans les grands termes la question des problèmes de sécurité publique, mais aussi des constats récurrents, et là les chiffres sont difficiles à obtenir, un écart réel entre les besoins et les effectifs policiers réels, et là aussi une rotation forte, une faiblesse des effectifs policiers, l'accès aux services de santé, pardon, et on parle les élus parlent de désertification médicale, voilà, on est juste aux portes de Paris. les inégalités liées au logement, les inégalités écologiques et les inégalités d'accès à l'espace public. J'aurais pu en choisir un certain nombre. Voilà. Alors, des esquisses d'explications historiques, là encore, la question de l'industrialisation, il faut noter juste que l'ouest de la Seine-Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, a été la banlieue la plus industrielle et donc à un moment la plus riche d'Europe jusqu'aux années 60. Et à partir des années 60, la désindustrialisation, chômage massif, et aussi des conséquences en termes de pollution des sols, de mutations urbaines assez importantes. Concernant la logique des peuplements, là aussi des vagues migratoires assez fortes, qu'elles soient de travail ou familiales, mais à chaque fois, comment dire, sans logique. Je pourrais aborder évidemment dans les années 60 un croisement des migrations organisées par l'État, le bimidum des compatriotes d'outre-mer, en même temps la décolonisation. Donc l'arrivée sur un même territoire de rapatriés d'Algérie et aussi d'anciens combattants qui combattaient à l'époque de la guerre civile en Algérie pour l'indépendance de leur pays, mais qui sont retrouvés en France. Voilà, on pourrait y revenir pourquoi. La question des logements, une figure qui revient souvent, un territoire exploité par l'État et par Paris, donc une sorte d'hinterland de Paris. Ensuite, la question de la métropolisation Est-Ouest, toujours ce déséquilibre entre l'Ouest de la région et l'Est. Donc, il y a eu des tentatives, des discours, des moyens mis pour la réorganisation administrative de la région, mais sans... Voilà. Une inégalité de moyens et de dépenses. Et enfin, je voulais aussi parler de la... Comment dire, que l'échelle départementale n'est pas forcément la bonne échelle parce que, évidemment, il y a les inégalités dont je vous parlais dépassent un peu, évidemment, le nord populaire des Hauts-de-Seine, département vraiment le plus riche de France. Il y a aussi les taux de pauvreté, de chômage, etc., se concentrent aussi au nord, au sud du Val-d'Oise et aussi, évidemment, au nord de Paris, dans le 18e et le 19e arrondissement. Alors, concernant, il y a une chose étonnante en Seine-Saint-Denis, c'est évidemment ce cumul des inégalités et parallèlement une sorte d'identité territoriale. Alors évidemment, on parle beaucoup du 9-3. On parle beaucoup du 9-3. Donc ce sont les jeunes de banlieue qui s'approprieraient cette identité territoriale. Donc il faut savoir que la Seine-Saint-Denis... donc construite en 1964, a beaucoup, évidemment, s'est construite de manière extérieure, avec une identité départementale quand même forte, construite via les médias, et j'aurais aimé démontrer comment les médias, avec leur logique intrinsèque, ont contribué aussi à construire une identité territoriale imposée. Une autre représentation du territoire, c'est une représentation victimaire. Il y a eu un documentaire qui s'appelle 93 Mémoires d'un territoire, produit par Yamina Benguigui, qui est venu à cette époque-là, non pas aujourd'hui, l'adjoint de la ville de Paris à la lutte contre les discriminations. Donc en fait, son propos était de comprendre les émeutes de novembre 2005. Elle a une certaine manière d'amener les choses, manière critiquée par certains historiens. Elle avait fait un documentaire qui amenait une ambiance, une histoire linéaire. Donc elle montrait évidemment que le territoire de la Seine-Saint-Denis, enfin de la banlieue nord, a été sacrifié par l'État. C'est le mot qui revient. Et par les logiques de peuplement dont je vous parlais tout à l'heure, par les décisions politiques aléatoires qui ont marqué le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, c'est comme si le département accumulait tout ce que la société française, au moins Paris, rejetait. Mais créer une telle représentation, n'est-ce pas forger en même temps une identité victimaire ? Et hier, nous parlions de ressentiment. Donc je vais conclure, malheureusement. Mais avant, je voulais ajouter que Parmi les acteurs publics, il y a une mise en problème, disons, publique d'un territoire à part. Tout à l'heure, je parlais du rapport sénatorial qui montrait justement qu'il voulait une loi dérogatoire, voire un secrétariat d'État dédié à la Seine-Saint-Denis. En 2007, l'ancien président, en relançant le Grand Paris, synthétisait un a priori d'État qui est pour moi très significatif pour développer une vision globale d'aménagement pour la Seine-Saint-Denis si proche d'ici, mais si isolée du reste de la communauté nationale par des difficultés exceptionnelles. Voilà. En 2008, excusez-moi, je vais rapidement. En 2008, il y a eu un rapport qui a donné le, disons le, excusez-moi l'expression, le faux poudre en Seine-Saint-Denis. C'est le rapport du recteur Fortier, conseiller national Parti socialiste, aux questions éducatives. Il décrivait un environnement nos futurs, densité, immigration, population carmondisée, je le cite, hein, et des familles déstructurées. À la fin, il parle, je le cite, beaucoup de jeunes de Seine-Saint-Denis ne peuvent pas être des élèves. Voilà. Donc, au sein de l'État, et c'est un implicite, évidemment, on ne le dira jamais ouvertement, il y a la représentation d'un territoire qui est à part de la République. Ça ne se dira jamais, évidemment, ouvertement. Donc, les acteurs locaux ont évidemment émis des stratégies de riposte face à ça, des revendications sur le retour au droit commun, l'exemplarisation, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis serait le laboratoire de la société française, le laboratoire des dynamiques à venir, la Seine-Saint-Denis serait riche de sa jeunesse, etc., etc. Donc, et une autre riposte, c'est la question, mais je n'aurai pas le temps de le développer, c'est la question des discriminations territoriales. Le sujet est venu en fait à partir de 2009, suite à l'action de la ville, la municipalité de La Courneuve, puis à l'action des parents d'élèves de la ville d'Épinay-sur-Seine, qui constataient des discriminations graves sur leur territoire respectif. Voilà. Pour finir, il faut ajouter que le département a le cinquième PIB de France, 40 milliards. Voilà, juste pour ça. Donc, conclusion ou transition. Donc, la question des acteurs publics est de savoir non pas comment corriger de telles injustices flagrantes, mais comment garantir plus de justice redistributive sur le territoire. Comment le faire ? Un élu, le jeune président du Conseil général, Claude Bartolone, a proposé de supprimer le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Je le fais vite, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation de faillite et les élus constatent bien que le département va être compliqué à gérer. Par ailleurs, pour observer les inégalités en Seine-Saint-Denis, il y a évidemment, et là je reviens à la question de l'observation des inégalités, comment la question donc, de cette concentration interroge la construction d'indicateurs synthétiques et pose aussi la question de l'échelle de l'observation. Mais par-delà l'observation, la question est que faire et par où commencer pour créer des leviers d'action et de réduction des inégalités territoriales trop importantes. Donc l'idée, c'est comment agir globalement sur cette injustice spatiale qui affecte la Seine-Saint-Denis. Voilà, merci de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, je me dévoile avant les discussions de tout à l'heure, mais je suis moi-même de Saint-Denis, donc du coup, voilà, plein de questions à poser. Pardon ?
Moi, j'enseigne.
Je pense que la Seine-Denis, très bien, parfait. Raphaël
Oui, oui, comme tu dis à moi. Je suis la littéraire de service ce matin, comme vous l'avez remarqué. Donc, pour une fois mise en minorité hein, par rapport à la table ronde d'hier. Du coup, j'ai décidé de parler de choses que je ne connais pas, en l'occurrence l'économie, pour me faciliter la tâche, mais essayer néanmoins de me relier à mes voisins. J'ai intitulé ma communication très... Enfin, dans un moment d'optimisme fabuleux, la littérature et les sciences humaines face au savoir des pauvres. Alors évidemment, je parlerai pas de la littérature en général, ni des sciences humaines en général. Je parlerai essentiellement de deux essais de Volman, Pourquoi êtes-vous pauvre ? Et de Esther Duflo et Abhijit Banerjee, Repenser la pauvreté. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et simplement, donc, pour situer un peu cette idée du savoir des pauvres, très très rapidement, la question que je me suis posée, c'était comment est-ce qu'on est passé d'un savoir sur les pauvres, justement, comment est-ce qu'on est passé d'une position d'observation qui était une position d'observation des pauvres, donc d'une confrontation, si vous voulez, presque duel, d'un affrontement entre « je regarde, moi, riche, les pauvres », à un mode d'observation peut-être nouveau, encore qu'il ne le soit pas tant que ça, je vais essayer de le montrer, qui essaierait de saisir le savoir des pauvres, donc de saisir les pauvres comme experts de la pauvreté et de construire à partir de ce regard des pauvres un savoir général peut-être sur le phénomène de la pauvreté. Donc ça, c'était l'idée de départ, hein, de passer de cette observation de la pauvreté à l'observation finalement du savoir des pauvres eux-mêmes et comment est-ce qu'on construit un savoir avec ça. Bon, après, voilà, on verra ce que ça donne. Juste pour vous donner, j'avais pris l'épigraphe de Daewoo de François Bon, qui est un roman que vous connaissez peut-être, qui commence par une citation qui dit « Et là, je commençais à penser qu'il est bien vrai ce que l'on dit que la moitié du monde ne sait comment l'autre vit ». C'est une citation de Pantagruel, donc de Rabelais, donc pour vous dire que cette question, même si je vais la traiter dans un corpus contemporain, est quand même un tout petit peu ancienne. Alors, pour ouvrir un peu la discussion, je vais partir d'un ouvrage très célèbre qui est l'ouvrage « Louons maintenant les grands hommes » qui a été publié en plein cœur de la Grande Dépression qui frappa l'Amérique dans les années 30, une dépression évidemment qu'on rapproche souvent de la crise que nous traversons aujourd'hui. Et « Louons maintenant les grands hommes », en anglais « Let us now praise the famous men », a été publié en 1939 après une longue enquête dans le sud des États-Unis et a été co-signé par un écrivain, James Agee, et un photographe, Walker Evans. Cette enquête sur la condition des familles blanches pauvres du sud des États-Unis, sur ce que Sylvie Laurent appelait hier les « white trash », devait devenir un grand classique de la littérature américaine et une référence incontournable des ouvrages littéraires sur la pauvreté. Et je voulais commencer avec ça simplement parce que quand vous ouvrez donc, ce livre magnifique, hein, ça commence en fait par un cri d'indignation. Un cri d'indignation et en même temps un aveu d'impuissance, donc de James Agee, qui résume un peu les difficultés qui sont inhérentes à l'observation des pauvres en littérature, mais aussi bien au-delà. Donc je vous cite cette citation qui est assez brève, hein, mais... je vais essayer d'être assez audible puisque je n'ai pas préparé mes photocopies. « Il me paraît curieux, pour ne pas dire obscène et tout à fait terrifiant, qu'il puisse advenir à une association d'humains assemblés par le besoin et le hasard et pour des raisons de gain et formant une société, un organe de presse, de fouiner dans les affaires d'un groupe d'autres êtres humains sans défense, des victimes à un point épouvantable, une famille rurale ignorante et corvéable, cela en vue de faire parade de l'état d'infériorité, d'humiliation, de nudité de ces vies auprès d'un autre groupe d'êtres humains. Cela au nom de la science, du journalisme honnête, de l'humanité, de l'intrépidité sociale, pour de l'argent, pour nourrir une réputation de croisade et d'impartialité, laquelle, entreprise avec assez de savoir-faire, devient monnaie d'échange comptée à n'importe quelle banque. Enfin, que ces gens soient capables de méditer cette entreprise sans le plus léger doute sur ce qui les qualifie pour faire un travail honnête et avec une conscience claire comme de l'eau de roche et dans la certitude virtuelle d'une approbation presque unanime du public. » Alors, il faut peut-être resituer un tout petit peu cette citation pour la comprendre. En fait, c'est une charge adressée par James Agee à ses patrons, puisque en fait, cette enquête sur les pauvres de l'Alabama avait été commandée par un journal, un magazine américain de New York. Et James Agee et Walker Evans étaient partis donc, pour honorer la commande en bons journalistes. Et en fait, s'étaient rendu compte que la commande, les termes même de la commande étaient tout à fait scandaleux. Et donc, avaient décidé de se mettre en congé de leur propre patron, cet organe de presse, donc, et d'écrire un livre donc, qui a poursuivi l'article initial et qui s'ouvre donc ce livre sur la dénonciation du journalisme, mais plus largement la dénonciation en gros des discours savants sur la pauvreté et d'une certaine forme de discours qui se prétend honnête, qui se prétend humaniste au fond, et qui en réalité est un discours qui reconduit l'humiliation dont il fait état. Donc c'est ce paradoxe-là qu'Adji et Evans vont essayer d'explorer, et c'est ce paradoxe, me semble-t-il, que la littérature et les sciences humaines depuis n'ont cessé de creuser. Donc ce qui est en jeu dans cette dénonciation violente du journalisme, c'est bien une forme d'immoralité de ce qu'on pourrait appeler le discours expert sur les pauvres. Et au-delà, encore une fois, du discours médiatique dont il est question dans la citation, on peut bien sûr entendre cette notion d'expertise dans un sens beaucoup plus large, en englobant finalement toutes les formes de discours qui se prévalent d'une forme d'autorité sur la pauvreté. Donc je pense évidemment au discours des journalistes, au discours des organismes spécialisés, ou plus généralement au discours des sciences humaines, donc de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la géographie, des sciences politiques, toute discipline bien représentée ici, hein, justement. Comme le dit Adji, le savoir sur les pauvres fait commerce de son objet, est une raison sociale, finalement. Tout en se parant des atours, de l'engagement, il prétend lutter au nom de valeurs universelles comme la science et l'humanité, quand en réalité il reconduit un rapport fondamentalement inégalitaire entre l'auteur et l'objet de son discours. Et il est finalement le fait de ce qu'un autre écrivain qui s'est revendiqué de l'influence d'Adji, qui s'appelle Robert McLiam Wilson, dont vous avez peut-être lu le livre qui s'appelle « Les dépossédés », et un livre magnifique aussi sur la pauvreté en Angleterre dans les années Thatcher. Robert McLiam Wilson a cette expression pour parler du discours savant, il parle des docteurs en pauvreté. Il en parle avec un certain mépris, comme vous l'imaginez. Nous sommes beaucoup de docteurs en pauvreté rassemblés ici, donc il me semble intéressant de commencer par là, encore une fois. Et ces docteurs en pauvreté, enfin, je vous épargne la citation de Robert McLiam Wilson, qui est encore plus, encore plus violente, finalement, que celle d'Adji, mais... D'une certaine manière, ils monnaient leur savoir auprès d'un public qui est lui-même friand d'histoires de pauvres, puisque McLiam Wilson explique que les livres sur les pauvres se vendent assez bien, et que finalement, ce qu'on cherche dans ces histoires de pauvres, c'est une forme de frisson de l'altérité ou une forme d'effusion sentimentale de l'empathie, toute chose finalement assez plaisante tant qu'on est suffisamment riche pour pouvoir en jouir avec une certaine distance. Donc, voilà le constat. Maintenant, évidemment, c'est le début d'un livre. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu Maus d'Art Spiegelman. À un moment, Art Spiegelman dit « Mais comment je vais pouvoir faire un livre sur la Shoah ?» De toute façon, Beckett disait « tout mot est une tâche inutile sur le néant. » Et son psy lui répond « Oui, mais enfin, il l'a dit. » Donc, bon, il a dû surmonter son... Voilà, et là, Louons maintenant les grands hommes est un livre qui fait 500 pages. Donc, manifestement, cette impasse du discours savant, il la surmonte d'une certaine manière en constituant un contre-discours, en constituant un autre discours qui se voudrait, lui, non humiliant, qui ne se voudrait pas un discours qui fasse parade comme ça de l'état d'infériorité des pauvres. Et. Par ailleurs, ce livre, en plus, a vraiment une prétention au savoir, à l'observation des pauvres. Donc, constitue la littérature en un espace de savoir, en un espace d'exploration, encore une fois, contre le discours des experts. Et du coup, comment est-ce que va se constituer cette expertise de l'écrivain par rapport à l'expertise des savants habituels ou des journalistes ? Elle va se constituer finalement par une forme de revendication du caractère complètement inexpert de l'écrivain. Comment est-ce que l'écrivain va essayer de retrouver une forme d'égalité avec son objet, le pauvre, en disant qu'il n'est vraiment pas qualifié pour en parler justement. Et donc on va avoir chez Adji, comme on va l'avoir ensuite chez Robert McLiam Wilson, comme on va l'avoir chez Volman, toute une série de discours qui sont des discours vraiment d'auto-dépréciation, de disqualification, comment moi puis-je parler des pauvres, moi qui n'y connais rien, moi qui ne suis pas pauvre, le seul expert qui devrait pouvoir parler ici, c'est le pauvre, et ça n'est pas moi. Donc c'est toujours cet aveu d'impuissance qui va être posé, et alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le pauvre ne parle pas, du coup ? Si le pauvre est le seul expert de la pauvreté, pourquoi ne prend-il pas la parole ? Et là, évidemment, donc on va se trouver face au paradoxe un peu que j'évoquais la dernière fois dans la conférence inaugurale de Rosan Vallon, c'est-à-dire le fait que justement, le pauvre, à partir du moment où il prend la parole, d'une certaine manière, n'est plus pauvre. Les pauvres qui sont en état de parler sont en général sortis de la pauvreté. Et là, puisque hier on parlait de notre programme sur la dépossession avec Monique Leroux, on pourrait opposer deux figures de pauvres de ce point de vue-là qui sont peut-être un peu éclairantes au théâtre, c'est Wojciech et le roi Lear. Wojciech, justement, il n'a aucun savoir sur la pauvreté. C'est un pauvre, il a toujours été pauvre, il mourra pauvre. Il n'a pas le temps de penser, il est tout le temps en train de courir, et puis finalement, il ne constitue aucun savoir. Alors que le roi Lear, il en sait des tonnes sur la pauvreté, mais parce qu'il a été riche et il a tout perdu. Et donc, quand il arrive à la pauvreté, il dit « Oh là là, maintenant je comprends comment il aurait fallu gouverner, et comment il aurait fallu gouverner en faveur des pauvres, justement. » Mais il a les termes des riches pour s'exprimer d'une certaine manière. Donc je caricature un peu, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que du moment qu'on prend la parole, même lorsqu'on a été pauvre, on semble indiquer qu'on est sorti de la pauvreté, on semble indiquer en tout cas que la pauvreté est devenue un objet dont on peut parler précisément. Et finalement, alors la façon dont on peut résoudre cette contradiction, c'est soit en faisant justement des espèces de recueil des vies des pauvres, en essayant de donner la parole aux pauvres dans notre discours, ou c'est en essayant d'en faire l'expérience. Donc je pense à des ouvrages là aussi que vous avez peut-être lus, comme Le Quai de Ouistreham, qui a été un peu un best-seller de Florence Aubenas, qui est une tentative pour faire l'expérience de la pauvreté, une tentative que moi je trouve vraiment très intéressante, mais une tentative qui a cette limite qu'elle expose tout à fait, hein, que c'est de la pauvreté volontaire, et donc une pauvreté dont elle sait qu'elle peut sortir. Donc elle en fait l'expérience, mais dans ses limites qui sont réelles, hein, que c'est une pauvreté choisie et absolument pas une pauvreté subie. Donc, dès lors, précisément, ce n'est qu'en renonçant à toute position d'autorité au sens littéraire et politique du terme, et même d'une certaine manière en inversant la hiérarchie traditionnelle entre le savant qui parle du pauvre et le pauvre dépossédé, que l'écrivain va se qualifier pour en parler. Quand je dis inversion de la hiérarchie, c'est, vous voyez bien le titre de Louons maintenant les grands hommes. Les grands hommes, c'est qui ? C'est les pauvres. Donc c'est une façon, justement, vraiment de renverser la hiérarchie attendue et de faire de l'écrivain un simple témoin de ceux qui ne peuvent pas prendre la parole, bien sûr, un simple témoin de ces grands hommes dont on ne parle pas assez. Alors ça va se traduire, ce renversement hiérarchique, là aussi, par des procédés formels, des choix qu'on retrouve dans plusieurs essais littéraires sur la pauvreté, mais je partirai seulement de Volman, là, même parce que j'ai pas le temps. Le premier procédé, c'est toutes les procédures finalement d'effacement du narrateur qui se pose justement en simple témoin enregistrant ce que Volman appelle des instantanés de la vie des pauvres pris sur le vif. Il y a cette idée d'une écriture photographique qui renvoie justement, il y a vraiment un modèle photographique très fort, qui renvoie au fait qu'on ne fait que cadrer finalement. Mais on s'efface derrière le réel. Le deuxième trait commun, et qui est très présent chez Volman, c'est toute la reprise et la disqualification des discours et procédures savantes, justement. C'est presque une parodie, l'essai de Volman, Pourquoi êtes-vous pauvre, c'est presque une parodie de traités savants. Il reprend chacune des procédures de l'enquête anthropologique, mais il les détourne. Donc, par exemple, Volman explicite le commerce qui lie le riche écrivain et le pauvre observé en rétribuant systématiquement les pauvres qui l'interrogent. Ce qui, à mon avis, en sociologie, posait problème. J'ai lu cette nuit donc, l'article de Nicolas Duvoux qui a fait une recension de Pourquoi êtes-vous pauvre, et j'étais étonnée qu'il ne soit pas scandalisé par les procédures de Volman. Mais lui, il trouve ça très bien. Mais de fait, Volman donc, prend comme ça, fait des entretiens, mais donc paye systématiquement les témoins. Bon, pourquoi pas, mais il y a quand même quelque chose d'assez curieux là. Mais c'est une façon de, voilà, d'expliciter ce dont parlait Hadji et de montrer qu'il y a un rapport de commerce, un rapport de profit, et de le mettre à jour. De la même manière, Volman fait des tableaux qui intéresseraient beaucoup Vincent, je pense, puisque c'est des tableaux comparatifs des revenus à l'échelle mondiale. Très bizarre, ces tableaux, je dois avouer. J'aurais dû faire un PowerPoint pour vous montrer, mais bon, il s'appuie sur des statistiques qui sont celles de l'ONU, etc. Mais en même temps, donc, il s'insère dedans. Donc déjà, il compare tous les pauvres. Alors lui, il n'y a pas de problème, hein, les pauvres mais seulement les pauvres qu'il interroge en même temps. Et donc, il y a un peu de Thaïlande, un peu d'États-Unis, un peu de Japon, etc. Et puis lui, il met son revenu au milieu, évidemment. Donc pour s'insérer dans le tableau et montrer bien d'où il parle. Donc vous voyez comment, je ne vais pas développer, mais comment est-ce qu'on peut reprendre des procédures du discours savant et puis expliciter leurs présupposés et du coup le rapport justement d'inégalité qui est gommé finalement dans la représentation savante. Autre trait récurrent, la présence de photographies qui ont pour vocation de montrer les visages singuliers des pauvres et de contourner l'impasse propre pour le coup au discours littéraire, celle de la dimension esthétique du discours. Et là, alors, pour le coup, ça va être le grand problème hein, de James Hadji, mais de tous ceux qui ont écrit après lui, c'est qu'il a quand même une qualification, une expertise, l'écrivain. C'est sa capacité d'écrire, justement, sa capacité de bien écrire. Or, cette expression, elle est la marque aussi d'une inégalité, cette expertise. Et donc, c'est ce qui a été reproché, par exemple, à Hadji, c'est ce que dit Volman à propos d'Hadji. Louons maintenant les grands hommes est un livre magnifique, mais c'est l'expression élitiste de désir égalitariste. Ce sont des livres, malgré tout, de riches observant des pauvres dans les termes des riches, lisibles par des riches. Donc là encore, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il faut écrire des livres de pauvres écrits pour les pauvres, etc., mais on voit bien la tension qui se trouve là. Cette série d'impasses, donc, qui sont maintenant bien connues, elle explique les avertissements liminaires qui ouvrent bien souvent les représentations littéraires de la pauvreté, qui exposent l'impuissance du livre, entendu à la fois comme impuissance à fonder un savoir certain, mais aussi comme impuissance à changer la situation des pauvres. Le discours littéraire, à bien des égards, s'érige contre non seulement la forme du discours savant, mais la vocation du discours savant à changer l'état des inégalités. Et on pourrait dire qu'il fonde son autorité, s'il en a une, justement sur cette réfutation du discours savant. C'est une autorité fragile, puisqu'elle s'établit dans l'exhibition du doute, de l'incertitude, de la subjectivité, du sentiment de culpabilité, voire d'impuissance. Mais c'est une autorité tout de même, dans la mesure où justement elle se fonde sur ces éléments. Alors, ce que je voulais interroger ici, mais je crois que j'ai déjà parlé hyper longtemps, c'est ça ? Il me reste 5 minutes ? Bon. Ce que je voulais interroger ici, j'arrive à la fin de mon introduction, c'est l'état, c'est la façon dont cette réflexion, qui était initialement une réflexion extrêmement polémique, comme vous l'avez vu dans ce cri d'indignation, sur la représentation des pauvres et ses difficultés, une réflexion qui était polémique et qui était encore une fois une façon de différencier discours littéraire et discours savant, est devenue une forme de modèle du discours savant. Donc la façon dont cette idée que le pauvre est le seul expert de la pauvreté et la façon dont il faudrait prendre en compte ce savoir du pauvre est finalement devenue une idée assez commune dans le discours des sciences humaines. Mais une idée qu'il n'est pas forcément difficile malgré tout d'intégrer après aux formes du discours des sciences humaines. Pourquoi tu ricanes ?
Non, parce que ça me fait penser à la
truc. D'accord. Quand je parle de... Je ne veux pas dire que la littérature a été un modèle, justement. Je veux dire simplement que... parce que c'est ce dont parlait Ruvan hier. Je veux simplement dire que ce n'est pas une référence, louons maintenant les grands hommes, mais c'est les présupposés de ce discours littéraire et cette idée d'expertise du pauvre qui a pu être récupérée, il me semble, hein, par le discours des sciences humaines, jusqu'au discours donc des sciences économiques. Et j'ai choisi l'économie parmi toutes les sciences humaines parce qu'il me semble que c'était celle qui avait peut-être le plus de mal à intégrer cette notion-là, justement, du pauvre comme expert de la pauvreté et du savoir du pauvre. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième, c'était que les démarches savantes, me semble-t-il, du coup, ont recours à une forme de particularisme. Donc je n'aurai pas le temps de montrer comment, mais voilà. Dans l'approche de l'expérience des pauvres. La troisième idée, c'est qu'il me semble qu'il s'est formé, au-delà même du discours savant et littéraire, une forme de consensus, presque social, sur la notion d'expérience de la pauvreté comme fondement de la connaissance. Par exemple, une banque française a proposé récemment à ses conseillers financiers un jeu de rôle pour savoir, en gros, un jeu de rôle où on est pauvre, pour qu'ils puissent comprendre leurs clients. Comme si ce n'était pas accessible par l'intermédiaire d'une formation traditionnelle et comme si justement il fallait faire une forme d'expérience de la pauvreté, même sous la forme du jeu, pour comprendre ce que c'est que d'être pauvre. Donc on voit bien là, évidemment l'exemple est caricatural, mais on voit bien comment cette notion d'expérience de la pauvreté peut devenir un fondement de la connaissance. Évidemment, ça nourrit, me semble-t-il, quand même des tensions à la lumière de ces rapprochements. D'abord, comment est-ce qu'on peut fonder un savoir général sur des théories particulières ? Ensuite, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la distinction du discours littéraire et du discours savant, justement, quand ces discours se rapprochent ? Et enfin, finalement, quelle est la théorie de ce savoir nouveau ? Quel savoir on constitue ? Alors, je ne vais pas du tout avoir le temps de vous parler concrètement de l'ouvrage d'Esther Duflo, peut-être d'ailleurs qu'on... Du coup, est-ce que je m'arrête là ou j'ai plus de temps là, c'est ça ?
Encore une minute ou deux pour conclure.
J'ai une minute ou deux pour conclure. Peut-être je vais juste. D'accord.
C'est ça.
J'ai plein de choses à te dire en fait.
Peut-être présente ce que
d'accord,
ce que
pour l'instant, en fait, j'ai dit les trucs les plus. Hein
Esther Duflo, en fait, pour éventuellement comparer. Je sais pas.
En fait, Esther Duflo, je pense que toi, tu voulais peut-être en parler aussi.
Non, je pense que c'est suffisamment de matière pour tout ce que tu as dit pour discuter. Mais après, c'est toi qui vas mettre.
D'accord, d'accord. Mais sinon, j'en parlerai dans la discussion d'Esther Duflo.
Ok, merci. Très, très belle conclusion, merci beaucoup. on va bien sûr, je pense que tout le monde a plein de questions à poser. C'était très très riche, très intéressant. Et par rapport à ce que tu disais, Raphaël, je crois qu'en effet il y a une tendance aujourd'hui pour peut-être d'ailleurs souligner encore avec plus de force l'importance des inégalités en France et dans le monde. Alors là, je parle de revenus précisément. Il y a pas mal d'études en ce moment qui invitent en fait les lecteurs à se positionner par rapport aux autres, donc dans l'échelle des revenus. C'est-à-dire qu'en fait, l'Observatoire des inégalités elle propose depuis 2 ans maintenant en France une espèce de calculatrice en fait où on indique son revenu mensuel et du coup ça permet de se situer par rapport à la dispersion des revenus en France. Voilà. Donc juste d'un coup, ça permet de voir que finalement on pensait peut-être qu'on était un peu mal placé dans cette répartition. Et donc, ça permet tout simplement de s'apercevoir que c'est souvent le contraire. C'est qu'en fait, on est plus riche qu'on ne le pense. Et au niveau mondial, il y a un économiste qui s'appelle Branko Milanovic, donc il y a la Banque mondiale, et qui fait un peu ce travail-là, sauf que lui, il est au niveau des pays. C'est-à-dire qu'il montre dans des graphiques très, très intéressants que lorsqu'on est, par exemple, en France ou aux États-Unis, en fait, qu'on soit le plus pauvre de France, par exemple, on est forcément plus riche que la grande majorité des habitants du monde. Voilà, donc ça permet juste de placer les choses, et ça, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Et alors, ça rejoint un peu la première intervention, j'ai une question sur l'extériorité que peut provoquer les rapports récents, par exemple, de la FAO, de l'ONU, sur les conditions de vie. Les tableaux, c'est une question un peu ouverte, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai le sentiment que de plus en plus les rapports internationaux donc soulignent les conditions de vie, très difficiles des plus pauvres du monde, tout en n'indiquant pas à quel niveau se situent les conditions de vie des plus riches. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'extérioriser en fait de ces difficultés. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, encore une fois, on se sort de ça et en fait, on n'arrive pas très bien parfois, enfin, en tout cas les experts, oui, mais pas la plupart des gens, à se situer par rapport à ces situations-là. Donc voilà, tout simplement que l'accès à l'alimentation est un problème, par exemple, dans les pays d'Afrique subsaharienne, et ça, en est plus, ça n'est plus le cas en France, par exemple. Et en fait, ces rapports-là ne le disent pas avec assez de force, justement, pour essayer d'inclure, en fait, ce phénomène, d'inclure les plus riches dans ce phénomène-là. Je ne sais pas si c'était très clair, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je trouve qu'on recrée en fait une forme d'extériorité à travers ces tableaux-là. C'est une...
je suis pas sûr d'être complètement d'accord. Enfin. Comment répondre ? C'est assez étonnant quand on regarde l'évolution des savoirs récents sur l'alimentation, ce sur quoi je ne travaille pas. Maintenant, je travaille plus sur les mobilisations contemporaines sur l'alimentation. Je dirais qu'il y a au contraire un phénomène très étrange qui consiste à faire de l'alimentation le problème de tous, mais aussi des pays riches. Alors, je vais complètement, du coup, au contraire de ce que tu dis, mais pour des raisons un peu, à mon sens, politiquement... perverse, c'est le fait que les études alimentaires sont de plus en plus gagnées par les security studies qui gagnent un peu partout. Et il y a des livres qui ont été assez médiatisés aux États-Unis récemment qui disent mais l'alimentation, en fait, c'est l'affaire de tous, parce qu'il y a aussi la malnutrition dans les pays riches, sachant que la malnutrition, c'est aussi trop manger. Et aussi parce que dans un monde de plus en plus interconnecté, finalement, il y a ce qu'on appelle la bombe alimentaire. Ça peut exploser et tout. C'est aussi une menace pour les pays riches. Il y a un mélange de tas de choses extrêmement différentes. Dans le livre dont je parle, par exemple, il y a des références aux attaques à l'anthrax qui ont suivi le 11 septembre 2001 et qui sont pris comme un risque alimentaire qui concerne les pays riches. Donc, il y a au contraire l'idée d'une menace global en fait, mais qui du coup, alors, et là je suis d'accord avec ce que tu dis, fait l'économie du fait que quand on revient à la base, cette menace elle n'est pas la même pour les autres. Concrètement, il y a des gens qui souffrent profondément de faim, de la malnutrition beaucoup plus dans certaines zones ou dans certaines catégories sociales ou dans certains genres que d'autres. Donc voilà, à la fin de ma réponse, finalement je conforte aussi ce que tu dis, mais pour dire que là aussi c'est peut-être il y a des choses très compliquées qui jouent là dans le fait de représenter globalement finalement l'alimentation aussi comme un problème des pays riches, mais pour des mobiles politiques qui ne sont pas très nettes à mon sens.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier ma collègue et amie, voilà, je le dis, vaut mieux, Raphaël Guidé, d'avoir posé ce problème ce matin, parce que c'est une préoccupation qui me, comme ça, que, qui me, voyez, j'arrive pas à le dire, qui me préoccupait depuis la rencontre avec Didier Besas. En fait, nous avons profité d'une générosité exceptionnelle quant au temps de cette rencontre, et en même temps, je n'ai réussi qu'à faire avec lui ce qui était pour moi une espèce de préalable, de premier point, parce que le deuxième aspect que je voulais interroger avec lui, c'était le fait d'être directeur de Centre dramatique national en Seine-Saint-Denis, d'une part, et d'autre part, j'avais apporté un texte que malheureusement je n'ai pas rapporté aujourd'hui, j'ai laissé mon dossier hier, que peut-être certains d'entre vous ont présent à l'esprit ou ont à leur disposition, qui est un texte qui a été publié dans le Monde des Livres la semaine dernière, dans le compte rendu des Assises du roman à la Villa Gillet à Lyon, et c'est un texte donc d'un romancier que je ne connais pas, s'appelle, si je crois bien me rappeler, Christophe Robinson. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un? Enfin, en tout cas, il y avait un paragraphe qui posait de manière assez agressive ce problème-là que tu as posé en termes, enfin, toi, mais pas les auteurs que tu as évoqués en termes plus nuancés. Et le paragraphe se terminait par... que tout ça a été fait pour les nantis, que nous sommes tous, comparativement, pour se tripoter la peur. C'est, voilà. Et je voulais lui lire, enfin, ou le faire lire, parce qu'il lit beaucoup mieux que moi, lui faire lire ce paragraphe. Je n'en avais pas parlé à l'avance, puisqu'on n'a pas du tout préparé la veille, contrairement à ce que je souhaitais. Et je voulais le faire agir là-dessus. Voilà, c'est cette espèce de cette manière de faire boutique, au fond, de cette parole sur les pauvres. Alors, juste très rapidement, deux questions à Wilfried Cerisier. Est-ce que l'on sait si le transfert de l'université de Vincennes à Saint-Denis, hein, si vous avez parlé de l'ouverture du Stade de France qui a eu un impact très important, est-ce qu'on a étudié l'influence donc, du transfert de Vincennes, qui était une université novatrice et atypique, à Saint-Denis, donc université créée après 68 sur des bases tout à fait différentes de l'université traditionnelle, d'une part, et d'autre part, est-ce que justement dans la prise en compte des éléments des facteurs d'inégalité, etc., en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'on évoque le fait qu'il y a en Seine-Saint-Denis, donc, et c'est unique, trois centres dramatiques nationaux, un à Saint-Denis, un à Aubervilliers, un à Montreuil, plus une maison de la culture extrêmement prestigieuse qu'on appelle MC93, tellement prestigieuse d'ailleurs que la Comédie Française avait envisagé de s'en emparer comme quatrième salle à un certain moment. Ça a capoté parce que, par exemple, à Aubervilliers, à Saint-Denis, il y a des navettes tous les soirs qui ramène dans le centre de Paris les spectateurs parisiens. Et évidemment, c'est très appréciable, hein, vraiment, on est très content. Mais en même temps, c'est pris, bien évidemment, sur le budget du Centre Dramatique National. Hein. Et je sais qu'il y a même des universitaires habitant, par exemple, Aubervilliers, qui réprouvent cette pratique. Voilà.
Alors, j'avoue mon ignorance sur la question des impacts sur le territoire du transfert de Vincennes. Je peux juste parler des...
C'est ancien. Hein.
Comment ? Oui, oui, d'une part, mais d'autre part, il y a eu évidemment des querelles, on va dire, politiques, quoi. Parce que les étudiants étaient à l'époque d'un certain courant, la municipalité d'un autre. Donc, bon. Mais sur l'influence concernant les stigmatisations, l'augmentation du taux de diplôme, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, concernant tout à l'heure, évidemment, dans le catalogue des inégalités, évidemment, on aurait pu parler des facteurs d'inégalité d'accès à la culture. Donc, par exemple, il y a vous parliez évidemment d'institutions prestigieuses. Il y a aussi la Cité nationale de la danse. Et puis, il y a un certain nombre de sites culturels prestigieux assez importants. Il y a aussi des réseaux de médiathèques. Voilà. Et on peut parler aussi de l'émergence de librairies dans les quartiers, qui est assez important.
Oui. Parisien, je pense. Hein.
Non, mais justement.
Les centres dramatiques nationaux.
Il y a un réseau à l'ouest du département, et là, c'est des chiffres en interne. Il y a seulement. Les réseaux de médiathèques de l'ouest du département touchent à peine 7% de la population, tout confondu. Hein. Ce qui pose certains problèmes. Et quand on parle de médiathèque, voilà, il y a des événements, etc. Donc, ça pose des problèmes d'accès à la culture.
Et pourtant, c'est gratuit. L'accès est gratuit.
L'accès est gratuit, bien sûr, oui. D'autre part, pour ce qui est des institutions prestigieuses, il y a évidemment, comme Didier Bezas le disait hier, c'est très important que ces institutions soient là. Des élus, des acteurs associatifs se sont battus et continuent à se battre pour que ces institutions vivent. Après, c'est l'accès au public, on va dire, local. Voilà. Alors, sur la question des navettes, bon, peut-être le ministère... Oui, mais peut-être que le ministère de la Culture pourrait trouver d'autres lignes de financement. Et en même temps, les acteurs j'en connais certains de ces institutions, ont un discours militant pour justement faire accéder les classes les plus éloignées de l'accès à la culture, même celles qui ne maîtrisent pas le français, pour venir dans ces institutions. Il y a des coopérations avec les écoles, etc., etc., avec les lycées, les collèges, mais il y a une sorte de barrière, quoi, de verre, pour reprendre une expression.
De 5% quand il est arrivé, parce qu'il y avait une dégradation effectivement très très nette. Après le départ de Gabriel Garand, il y avait deux autres directions très différentes, à 30% actuellement, en gros, selon les saisons.
Oui, et votre remarque me fait penser, alors, à un autre domaine, sur les questions de la stigmatisation territoriale. Donc, je vous disais, évidemment, national, travaillé par les médias, construit par les médias, ressassé, vous le savez, mais aussi au niveau régional. Il y a de grands paradoxes en Seine-Saint-Denis, à l'ouest du département, forte tertiarisation, implantation de grands sièges sociaux. Par exemple, à Saint-Denis, ce sera le pôle de téléphonie, 15 000 salariés en 2015. Formidable. Hein. Et j'ai appris que, tout à fait incidemment, il y a eu aussi le siège de BNP Paribas. Donc, au début de leur installation, on offrait aux cadres, parce que là, ça pose aussi un problème de l'accès à l'emploi local. Donc, les cadres qui venaient de Paris, en fait, se déplacent en navette du RERB, tout juste à côté. Et à un moment, on leur a même payé des cours de self-défense. Voilà. Par exemple, c'est noté que voilà, il y a des gros problèmes. Outre ces problèmes de représentation, de stigmatisation, évidemment, il y a des problèmes de circulation, d'emploi. Voilà. Comment arriver à ce que l'implantation d'une grande société nationale, internationale, arrive à faire accéder à l'emploi de nombreux séquoiaux dionysiens, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Voilà.
Merci. J'ai trouvé vraiment l'enchaînement très, très intéressant des interventions, parce que j'ai trouvé que ça exprimait assez bien un des problèmes qu'on a rencontrés déjà à plusieurs reprises, qui concerne la question des conditions de la représentation ou les conditions de l'expérience de l'injustice. Et j'ai trouvé qu'il y avait même s'il y avait des thèmes très, très différents, il y avait des échos assez forts qui permettaient de voir, par exemple, ressurgir plusieurs fois une sorte de question épistémologique qui est comment constitue-t-on son objet d'une certaine façon, avec soit une question épistémologique, soit une question morale, soit une question d'auto-représentation de soi comme tenant un discours sûr, ou pour reprendre ce que disait Jean-Paul hier, la question de parler devant ou parler pour, toutes ces questions sont très importantes. Et j'ai trouvé, par exemple, que dans l'intervention de Colline, c'était assez original, parce qu'on partait d'un constat d'un avantage apparent ou d'un avantage supposé, pour ensuite refaire surgir à la faveur d'une hypothèse qui était que la différenciation jouée là aussi était en fait, que ce qui pouvait apparaître en un avantage était en fait le fruit d'une différenciation, c'est-à-dire d'une injustice faite aux femmes. Et c'est quelque chose qui est très très intéressant, par exemple dans la littérature, je pense à Mauriac et Thérèse d'Esquerou, elle est invisible comme sujet de justice parce qu'elle est restée cloîtrée dans la maison, et c'est la famille, l'unité familiale qui rend la justice sur la femme, et c'est pas la société dans son ensemble. Donc ça dit effectivement quelque chose de très violent sur la condition féminine. Et dans les théories de la justice, par exemple, on a parlé de Rawls avec Rosan Vallon la dernière fois et un petit peu après, mais ce qui est très intéressant, c'est comment les féministes ont pris en charge la théorie de la justice en lui disant qu'il n'allait pas assez loin, et que de prendre comme unité de référence la famille et non pas ce qui se passe aussi à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire de dire, par exemple, est-ce que entre les membres d'une même famille le rapport n'est pas aussi à comprendre comme un rapport de justice, est important. Lui dit ben non, c'est à l'intérieur de la famille, vous voulez quand même pas qu'on parle de justice, c'est plutôt l'amour qui règne, ou le désamour, mais en tous les cas pas quelque chose qui relève de la justice. Et donc les féministes qui se voulaient libérales au sens de Rawls ont voulu réélaborer une théorie de la justice qui montre que la justice doit aller jusqu'au sein de la famille et poser les problèmes aussi de redistribution au sein de cette famille. Donc c'est ça, c'était super intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose aussi d'un peu subjectif. C'est l'hypothèse de Colline qui fait un retournement un peu spéculatif, pour le coup, vous qui était assez marquant. Dans la perspective de Vincent aussi, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a la nécessité de se construire un monde commun. Il y a Peter Singer, un philosophe utilitariste contemporain, qui a écrit un livre sur ce monde, One World, pour montrer que ce n'est pas du tout la même chose dès lors qu'on se représente une collectivité comme une communauté morale d'une certaine manière, et que d'une certaine façon la souffrance de l'autre devient aussi quelque chose qui me concerne parce que c'est un autre qui appartient à la même communauté que moi. Donc là aussi il y a une sorte de présupposé moral qui fait que d'un seul coup le cadre de l'analyse va changer. Le catalogue, pour reprendre la formule de Wilfried, il est intéressant en tant que tel, parce que pourquoi avoir hiérarchisé les inégalités sur ce mode, pourquoi tel choix. Après il y a manqué de temps, donc il y a certaines inégalités qui ont été moins soulignées que d'autres, mais en même temps elles étaient bien organisées. On voit bien par exemple même l'Observatoire, on a des biais assez insupportables sur la question des revenus, sur la question du patrimoine culturel, etc. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, donc il y a énormément de choix qui sont toujours apparents. Et Raphaël, d'une certaine manière, tu as insisté vraiment sur cette question en posant le rapport de concurrence quasiment que peut entretenir les différentes personnes qui parlent sur la justice. Et moi, Volman, je trouve le livre intéressant, mais la personne insupportable. La charge contre Hadji, je la trouve complètement déplacée, parce que bien évidemment, l'effacement du narrateur chez lui, elle est purement rhétorique. Il est partout. Quand tu dis il ne fait que cadrer, il est super violent. Il est toujours là, jusque dans la représentation de lui-même dans les tableaux statistiques. Donc la question, c'est vraiment est-ce qu'on résout notre problème en allant plus loin dans le fait d'assumer le caractère subjectif du discours, et que c'est peut-être par ce biais-là qu'on va pouvoir dire quelque chose de véritablement objectif. On retrouve la question de savoir si l'universel est l'opposé du particulier, ou est-ce qu'au contraire, c'est en assumant pleinement certaines dimensions de la particularité qu'on va retrouver cette dimension de particularité, d'universalité. C'est ce que disait Rosan Vallon d'une autre manière, la question de la similarité, la question de la singularité. Cette tension-là, comment on l'assume? Ou est-ce qu'au contraire, il faut reconstruire des protocoles d'objectivation en essayant de faire en sorte que la subjectivité ait le moins d'impact possible? Là, dans la discussion, on voit bien que la subjectivité, ou le point de vue plus particulier, qu'il soit moral, qu'il soit d'autre nature, a joué un rôle intéressant dans la production d'un savoir qui me semble objectif. Donc, est-ce plus d'objectivité, plus de... Par exemple, Mauriac, moi, je trouve qu'il dit quelque chose d'assez fort sur la même situation que toi, enfin, celle que tu décris.
Moi, je voudrais poser une question. Enfin, comme j'ai parlé, c'est d'abord si personne. J'ai vu qu'il n'y avait personne qui voulait parler là, c'est bien ça. En fait, c'était. Je trouvais ça super intéressant, toutes les interventions. Et je voulais réagir à la tienne, en particulier Raphaël, sur la question de la voix du pauvre, du fait de pouvoir ou non parler pour les pauvres. Il me semble qu'il y a plusieurs manières de la poser. On peut la poser du point de vue. Morale, du point de vue éthique, donc tout ce qui est le frisson de l'altérité, éventuellement l'argent aussi que ça rapporte de parler des pauvres, et la figure morale qu'on se construit en parlant des pauvres. Et puis il y a une autre manière qui n'a rien à voir, c'est de le poser tout simplement du point de vue méthodologique et du point de vue politique, qui, à mon avis, en tant que chercheur, moi, la seule manière dont... Enfin, c'est la manière principale dont je l'entrevois, même si, par ailleurs, je peux trouver très subjectivement insupportable des gens qui se mettent en spectacle en tant que porte-parole des pauvres, ou comme ayant un rapport expérimental à la pauvreté, alors qu'eux ne le sont pas. Mais ça, c'est très subjectif. Et alors, donc, soit d'un point de vue méthodologique, soit d'un point de vue politique. D'un point de vue méthodologique, il y a eu des grands débats, c'est très vieux, hein, c'est présent dans toutes les introductions de livres qui parlent de la pauvreté, notamment autour des cultural studies, et notamment d'Oscar Lewis, qui est... a fait des livres sur l'anthropologie de la pauvreté. Alors c'est un livre qui est très beau à lire, par exemple, La famille Sanchez. Il y a eu tout simplement des débats sur qu'est-ce que signifie un rapport sociologique à la première personne de famille pauvre qui est produit dans le cadre d'une interaction entre ces familles-là et le chercheur, et qui en fait réécrit aussi d'ailleurs, quoi, reformule. Donc et là, c'est un problème méthodologique qu'on retrouve aussi après chez les subaltern studies. Il y a un article très polémique de Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speaks, et voilà, où on peut le placer d'un point de vue méthodologique, mais où Gayatri Spivak est aussi un peu ambiguë, parce qu'elle, elle le pose aussi d'un point de vue moral. Mais là, pour moi, il y a une ambiguïté. Et après, d'un point de vue politique, c'est à quoi ça sert? Et là, je prends un autre exemple et après, je m'arrête. C'est la Banque mondiale a écrit dans les années 90, me semble, un livre qui s'appelle La voix des pauvres. Et c'était très intéressant parce que ça intervenait en plein moment de grosses critiques des plans d'ajustement structurel. Et il y a eu les nouveaux plans d'ajustement structurel avec la dimension plus humaine et avec les filets de sécurité, etc. Et c'est clair que là, envoyer des anthropologues dans le monde et se dire dépositaire de la voix des pauvres, ça avait une fonction politique. C'était recréer de la légitimité pour faire des politiques qui n'étaient pas extrêmement différentes finalement, mais en se valorisant de parler pour les pauvres et de s'intéresser vraiment d'une parole d'en bas. Il me semble que c'est vraiment ces deux questions-là qui, moi, en tout cas, en tant que chercheur m'intéresse, c'est la fonction politique de ces savoirs, et après toute la question méthodologique, ce qui ne m'empêche pas après d'avoir des réactions très subjectives sur le caractère éthique de la chose.
Alors, en fait, je vais te répondre assez mal parce que je pense que j'ai pas suffisamment de recul, mais en fait, je voulais partir de James Agee. Mais la deuxième partie de mon intervention, ou plutôt la première partie, enfin, ce que je voulais raconter, c'était précisément la façon dont, dans notre époque de pensée, là, on était passé de ce point de vue moral à la question du savoir. Et moi, il me semble que ce qui est intéressant actuellement, ce qui se passe de neuf peut-être dans la littérature et effectivement dans le débat savant, en tout cas dans la théorie économique, à mon avis, le débat savant dans la théorie économique tel que je le lis est un peu en retard sur l'historiographie, par exemple, sur ces débats-là, ou sur la philosophie. Justement, ce qui se passe, c'est qu'on sort un peu de cette question morale et on essaye de repenser cette question de l'expertise du pauvre en termes de quel savoir on construit et comment on construit du savoir à partir du particulier. Et donc, on revient un peu à ce que tu disais hier sur la poussière de l'archive, c'est-à-dire justement, si aussi bien les écrivains que finalement les économistes doivent aller enquêter de façon doivent aller jusqu'à l'individu, vraiment, et à son expérience de la pauvreté, et envisager la relativité extrême des expériences de la pauvreté, comment encore construire du savoir qui soit du savoir théorique universel, suivant quelle méthodologie. Et c'est là qu'à mon avis, en fait, on n'a pas encore trouvé justement une bonne alliance de l'universel et du particulier. Enfin, on est ce que, par exemple, Esther Duflo et donc, j'ai oublié son prénom, Abhijit Banerjee, propose, c'est, tu me disais, en fait, un outil hyper ancien, puisque c'est des enquêtes aléatoires à la façon des essais de médicaments. Des enquêtes localisées, et donc ils disent bien, nous ne répondrons pas à la question de savoir si l'aide internationale est positive, ni si c'est mieux de distribuer les moustiquaires ou de les vendre, mais nous pouvons vous dire que en Indonésie, dans l'Indonésie rurale du sud-ouest, il a été plus utile de les vendre que de les... Donc, on arrive à un savoir qui est particulier, ce qui, sur le plan politique, est présenté à la fois en littérature et dans les sciences humaines comme positif, parce qu'en fait, c'est une façon de ramener le problème de la pauvreté à des dimensions qui soient des dimensions raisonnables. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on n'a plus de solution universelle, mais on va pouvoir vous reconfigurer des zones de comparabilité, des situations comparables qui permettent de réfléchir au moins à des situations locales et à certaines expériences, et donc de retrouver une forme d'optimisme qu'on avait perdu, à mon avis, en littérature, puisque là, la figure de l'écrivain engagé a quand même pris un sacré coup, hein. Et qu'on avait perdu aussi, d'une certaine manière, dans certains discours des sciences humaines. Et donc, on retrouverait une forme de... Je le dis de façon beaucoup trop générale, là, parce que, justement, je ne m'appuie pas sur les textes, mais il me semble que Volman, par exemple, est quelqu'un qui, à la fois, dit « mon livre ne changera rien », mais qui n'est pas du tout désespéré comme James Agee, parce qu'il dit « mon livre ne changera rien », mais bon, j'ai trouvé ce type qui était en train de gire sur le sol... je l'ai ramassé, je lui ai payé son loyer pour 2 mois. Donc j'ai changé sa vie. Enfin, il retrouve des formes d'intervention politique que là aussi je trouve hyper discutables. mais il retrouve des formes de l'engagement par le particulier. Et il retrouve des formes de comparabilité et d'universalité, là aussi, par le particulier. Et en même temps, je trouve que les outils qu'on a pour l'instant, tels que je les vois en tout cas dans ces deux essais, ne fonctionnent pas très bien. Après, il y en a peut-être qui fonctionnent et que je ne connais pas, tu vois. Mais je pense qu'en historiographie, le débat est beaucoup plus riche, en fait, là-dessus, et beaucoup plus fin, justement. Et que là, ce que j'ai exposé, c'est justement un peu les clichés de la littérature sur le discours savant, si tu veux. Plus que ce qu'est le discours savant. Donc c'était un peu le préalable. Voilà.
Juste en sociologie, parce que c'est une question qu'on se pose en permanence, c'est-à-dire effectivement quand est-ce qu'on interroge quelqu'un et qu'est-ce qu'on fait d'un entretien, mais en fait, ça me paraît, c'est une interrogation même de la sociologie et de son caractère hypothétiquement très savant, scientiste, etc., à laquelle Durkheim va dire un individu plus un individu, ça fait pas deux. Et l'école de Chicago, et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux traditions qui vont s'ancrer et qui vont faire une sociologie de la pauvreté différente. Hein. D'un côté, un Bourdieu qui va jusqu'à essentialiser d'une certaine façon les classes populaires, et de l'autre côté, effectivement, un Hogarth qui va prendre la parole et faire son bouquin sur la culture du pauvre. Et donc, en fait, je pense que la question de la méthodologie, mais même de l'interaction, ça va se jouer jusque dans les réflexions sur qu'est-ce qu'on fait en entretien. Et du coup, ta question sur est-ce qu'il faut rétribuer la personne avec qui on fait un entretien ou pas, c'est une question aussi qui va se jouer. Après, sur la question de la subjectivité, donc tu ferais crier certains sociologues, et pourtant les féministes ont permis de montrer aussi que le savoir était situé, enfin, elles ont produit une épistémologie du savoir situé, et je pense que là-dessus, c'est important. Avec toute cette ambiguïté en sociologie qu'on dit il faut objectiver les faits sociaux, et pour objectiver les faits sociaux, il faut faire de l'auto-analyse, si on suit Bourdieu, et donc se demander d'où l'on vient, ce que Bourdieu a fait très très tard, hein, puisqu'il publie une autobiographie. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fois, je l'assume et je ne l'assume pas. C'est-à-dire, je l'assume dans ma façon de concevoir les rapports sociaux de sexe, qui tient aussi à ma trajectoire, issue justement d'une famille intellectuelle bourgeoise, etc. La prise de conscience d'être une femme, par exemple, et dans un système d'inégalité, arrivée plus tardivement, sans doute, que le fait de travailler sur les classes populaires, obligeant aussi à mesurer les distances qui me séparent en tant que femme d'autres femmes de la classe des femmes. Après, sur cette question du renversement, c'est-à-dire cette inégalité qui semble une injustice faite aux hommes, c'est à la fois subjectif et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ça l'est parce que pour moi, c'était important d'interroger des figures sombres du féminin. C'est-à-dire que là, j'avais aussi un rapport au féminisme, sans doute, qui explique pourquoi. Mais c'était aussi très expérimental, c'est-à-dire que j'ai commencé par travailler en prison et par me rendre compte que les trajectoires des femmes incarcérées que je rencontrais étaient marquées par des tas de dispositifs de contrôle qui passaient évidemment d'abord par la famille, hein, puisqu'évidemment c'est une affaire aussi de socialisation et qu'effectivement se met en place un processus judiciaire à l'intérieur du milieu familial. Donc c'était à la fois rendre compte de ces trajectoires, hein, et elles vont passer par des figures de la déviance différentes, la prison venant souvent sanctionner la sortie du féminin, hein, c'est le placement par exemple d'un enfant n'intervient pas au moment de la détention, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand l'enfant est placé que, sauf en cas évidemment d'infraction très grave, que l'enfant, enfin c'est quand l'enfant est placé que l'incarcération est possible. Après, se joue aussi des histoires de... Bon, bref. Donc, il y avait ça. Et il y avait comment, à l'intérieur des prisons de femmes, on a des espèces de zones franches qui sont ces espaces réservés aux mères avec enfants. Il n'existe pas la symétrie dans les prisons d'hommes. Hein, c'est-à-dire que jamais on propose aux hommes qui ont un enfant de moins de 18 mois de garder avec eux leur enfant. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un espace qui est plutôt considéré comme extrêmement... c'est plutôt des conditions de détention plutôt favorables, hein. On est frappé, enfin je veux dire, ça sent pas pareil, les portes sont ouvertes, à Fleury c'est très particulier, hein, c'est la vitrine pénitentiaire de l'établissement, et donc de fait on a plutôt des conditions favorables, les femmes sortent plus facilement, de détention. Hein, on a mis en place de la même façon qu'il y a toute une littérature grise sur la gestion de la maternité par les policiers. Mais pour autant, se met en place une infrapénalité à l'intérieur de cet espace-là qui est très très forte et qui va tourner autour de la question de la maternité. Et donc, c'est plus seul face à sa peine, c'est seul face à l'enfant. Et donc là, pour moi, là, j'avais un... Voilà. Après, il y a ça, et puis il y a une trajectoire scientifique d'ouvrir d'autres espaces qui m'ont permis aussi, d'un travail de comparaison. Voilà.
Si je peux réagir aussi encore sur un point, c'est... moi, j'ai observé donc une espèce de rapprochement entre les deux essais dont je voulais parler en économie, mais en littérature, mais c'est un peu des rapprochements formels, c'est-à-dire le problème, encore une fois, c'est quel savoir on constitue et quelles questions on pose. C'est bien de donner la parole aux pauvres, mais quelles questions on leur pose et pour constituer quel savoir. Et de ce point de vue-là, là aussi, la démarche de Volman est assez problématique, puisque la question qu'il pose aux pauvres, c'est pourquoi êtes-vous pauvre ? Et qu'est-ce qu'on en tire de cette question ? Donc, on enregistre leurs réponses, c'est des réponses, le destin, le karma, le machin. Ah, alors, que faut-il penser avec des passages qui m'ont beaucoup choquée, hein, sur les femmes afghanes qui parlent justement de leur invisibilité, et lui qui dit oui, mais bon, c'est aussi une marque de respect culturellement, enfin, avec tout ce que ça suppose aussi de relativisme extrême, de déconstruction totale de la notion de pauvreté aussi, puisque... Il parle de cette femme qui dit « je ne suis pas pauvre » alors qu'elle est mendiante. Et donc il dit « bon, mais finalement, du coup, la pauvreté, puisque je vois qu'elle est pauvre, en même temps, elle dit qu'elle est riche, est-ce que ça existe ?» On voit jusqu'où ça peut mener et jusqu'à quelle négation même du savoir, justement, et des catégories universelles. Et je ne dis pas qu'il y a une condition universelle du pauvre, au contraire, mais quand même... la mendiante, effectivement, on peut la déconstruire comme catégorie, mais il me semble que c'est pas une construction de l'esprit, le fait que la mendiante est pauvre. Donc, il me semble que au-delà des rapprochements formels, et là, c'est pareil sur littérature et historiographie, on n'arrête pas de poser les mêmes questions, mais dans des termes qui sont tellement différents, que je crois que même si on a vocation au savoir, c'est quand même à des savoirs qui se constituent de façon, en fait, encore très séparée, très parallèle.
Par rapport à la pauvreté, là tu prends l'exemple de cette femme, là il y a un conflit culturel et de distance géographique, mais par exemple générationnellement parlant, c'est extrêmement intéressant de voir comment les personnes qui ont vécu la Première Guerre mondiale ou qui parlent de la pauvreté n'en parlent pas du tout dans les mêmes termes que des jeunes qui sont nés dans les années 70 ou 80. Et donc, de quoi parle-t-il et comment peut-on même formuler le conflit politique sur la question de la redistribution dans des conditions pareilles ? C'est extrêmement problématique. Ouais.
Oui, puis encore une fois, du coup, comment est-ce qu'on peut construire de la comparabilité et quels sont parfois aussi les effets pervers de cette comparabilité ? Parce qu'il me semble que, en tout cas, chez Volman, il y a une espèce de vocation encyclopédique qui rejoint un peu les... C'est super, en un sens, parce que justement, on est capable de comparer l'expérience du SDF à San Diego et l'expérience du pauvre en Thaïlande. Bon. Mais en même temps, ça produit une égalité, ça évite cette espèce de dualisme de l'observation par les riches de la pauvreté des pays pauvres, mais en même temps, ça produit aussi un relativisme terrible et des effets assez, assez curieux de décontextualisation politique, puisque finalement, justement, la pauvreté aux États-Unis devient quasiment... Elle est à la fois recontextualisée au niveau individuel, mais en même temps, elle est décontextualisée politiquement, puisque la pauvreté aux États-Unis devient un phénomène parfaitement comparable, finalement, à la pauvreté en Thaïlande, parce que les pauvres sont invisibles ou difformes, ou suivant des catégories qui sont toutes assez questionnables.
Oui, tu parlais de comparabilité perverse. En fait, je crois que c'est Cédric Rio qui vous avait dit, je crois que en fait, si on compare le niveau de vie des Français à les plus pauvres au niveau de vie dans d'autres pays, de toute façon, la comparaison est toujours enfin bon, je ne vais pas reprendre mal ce que vous avez dit très bien. Par rapport à ces comparaisons, en fait, j'ai envie de parler en tant qu'universitaire, parce que c'est assez compliqué, je trouve, dans le texte de présentation du colloque, vous avez parlé de représentation d'écart. Et en fait, à l'université, ça, je trouve que c'est un problème qui se pose beaucoup. C'est-à-dire que, il y a certains collègues qui, par rapport au niveau d'études qu'ils ont pu faire, quand ils se comparent à leurs amis médecins spécialistes, etc., parlent de leur situation presque en termes de justement de misère de position, hein, on en a parlé hier. Et je trouve que c'est compliqué à la fois de s'engager dans des luttes, on va dire, syndicales, et en même temps de ne pas perdre la conscience voilà, nous sommes quand même, dans bien des cas, des privilégiés. Et moi, quand j'entends certains de mes collègues qui n'arrêtent pas de gémir sur la situation, dans un petit comité, je pense toujours à mon père qui faisait les 3-8 chez Renault et qui le dimanche après-midi commençait à avoir le syndrome du pensionnaire à l'idée qu'il allait retourner habillé en cours le lundi matin, et qui est mort prématurément comme beaucoup de métallurgistes, en fait. Voilà. Et c'est difficile, justement, par rapport à cette représentation de l'écart qu'on a soi-même, de tenir le debout, c'est-à-dire de pas considérer que, parce que nous sommes comparativement des privilégiés, il faut se laisser traiter n'importe comment, et on l'a été vraiment beaucoup ces dernières années, et en même temps de ne pas être non plus dans la déploration permanente de notre site. Enfin, voilà,
moi, je pense qu'on voit tous assez bien ce que tu veux dire, étant tous dans ces situations, mais je pense que ça va être un peu l'objet aussi des réflexions de cet après-midi, à vrai dire, puisqu'il va être question justement du sentiment d'injustice, donc plus de comment est-ce qu'on construit. Et enfin, je sais pas, je pense, Solange, que tu m'avais envoyé, ça ressemblait un peu à cette idée aussi de répondre à ce décalage parfois entre un sentiment et une réalité. Donc je pense que ça va un peu mieux répondre à ta question qu'on ne pourrait le faire.
Oui, non, c'était juste pour réagir. Ouais. Je comprends parfaitement ce que vous dites aussi de votre propre passé familial. Mais c'est vrai que c'est aussi des dispositifs politiques de construire des positions de privilège relatif. Hein. On peut très bien culpabiliser des RMistes en France de se plaindre au nom de petits enfants au Bangladesh. Et ce n'est pas des discours neutres, quoi, en fait.
Ouais. Sébastien,
Oui, Monique Leroux m'a précédé dans sa pensée de ce que je voulais dire. Je me demandais quelle était la légitimité de parler donc d'une comparaison entre chaque pauvre de chaque pays, voire d'une globalisation, d'une mondialisation de la pauvreté, d'une vision unique de la pauvreté, alors que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes dans les pays, quoi. Donc forcément, quelqu'un comme nous, étudiants, je parle de mon point de vue. Moi ici, je ne suis pas riche, hein, je suis petit étudiant, je touche les bourses aux critères sociaux, ce n'est pas énorme. Et j'ai passé quelques mois en Serbie et j'avais un niveau de vie vraiment très bon, quoi. Donc la vision de la pauvreté n'est pas du tout la même, ou alors du statut, disons, du niveau de vie et des moyens économiques ne sont pas les mêmes.
Je crois que c'est la question qu'on essayait de poser, c'est-à-dire justement, est-ce qu'on peut construire des seuils de comparabilité, sachant qu'en même temps, la situation se complique. Là, j'essaye d'organiser un colloque avec des Brésiliens qui nous disent, nous, on a plein de blé, on vous paye tous vos billets d'avion, etc. Les choses se reconfigurent aussi un petit peu dans des sens qui ne sont pas toujours attendus. Donc je pense que ce qui m'intéresse, c'est l'idée de reconstituer des formes d'encyclopédie, c'est-à-dire de collection justement de particularités, pour constituer malgré tout un savoir universel. Et je crois que Volman est un peu dans cette démarche, et dans cette démarche de créer de la comparabilité. Mais encore une fois, c'est une question de méthodologie. Justement, c'est pour créer quel savoir, avec quels outils. Et il y a des outils légitimes, il me semble, suivant lesquels certaines situations de pauvreté peuvent être comparées, y compris la situation du mendiant en Serbie et en France. Enfin, le documentaire qu'on a vu hier soir montre aussi que les situations bougent et que je pense que ce que vivent les migrants est encore pire que ce que vivent certaines autres catégories de sang en France, mais tout ça se rejoint aussi, peut se comparer. Donc, je crois qu'il y a des protocoles, justement, suivant lesquels on peut comparer. Le problème, c'est de ne pas comparer n'importe comment. Donc,
je crois aussi qu'il y a des contextes qui se croisent, en fait. C'est-à-dire que ça a du sens, et je pense, de dire que le plus pauvre des États-Unis est plus riche que la majorité de la population du monde. Et en même temps, ça a beaucoup de sens aussi de rappeler que le plus pauvre des États-Unis subit des dominations politiques, économiques de la part des plus riches aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc il faut avoir tout ça en tête.
Ce qui constitue la pauvreté.
Bien sûr, oui.
Dans un espace d'évite, ne pas avoir d'audience sociale, par exemple, c'est relatif aussi. Enfin, bon, c'est classique.
Et si on voulait rendre la discussion encore plus étrange, on parlerait du travail de recherche de Cédric. Hein. C'est-à-dire comment gérer les victimes de souffrances, d'inégalités absolument terrifiantes, mais qui ne sont pas encore nées. C'est-à-dire les générations futures.
Intéressant.
On en parlera un autre jour.
J'avais une question, en fait, mais rien à voir avec la discussion qui a commencé, sur la production, l'objectivité, sur les inégalités. On a en France l'appareil statistique critiquable mais qui existe, assez dense, mais on a aussi des productions parallèles, je pense aux collectivités territoriales qui a une commande publique assez forte pour produire des chiffres, des diagnostics, etc. Et bien sûr, il y a citation des uns par les autres, etc. Il y a aussi des concurrences institutionnelles. Dans le cas de la commande publique, les élus ont des demandes fortes. Est-ce que les experts, dans ce cas-là, sont indépendants? C'est une autre question. Donc voilà, comment arriver à une objectivité pas totale et une indépendance, en tout cas, de la recherche sur cette production-là? Une question sur la question des... Ah non, mais c'est un fait, donc...
C'est pas toujours le lobby des cigarettiers qui financent les labos. Ça peut être effectivement la commande publique qui oriente fortement les...
Ouais, tout à fait, oui. Donc dans
la question
dans...
des territoires, pourquoi la question des territoires est devenue super importante dans la question de la réflexion sur les inégalités? Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent.
Bien sûr. Enfin, de moins en moins, je vous rassure. Et deuxième point, c'est sur le sens du catalogue des inégalités en Seine-Saint-Denis. Donc évidemment, on est saturé en Seine-Saint-Denis par les chiffres, par les statistiques, par une saturation aussi médiatique qui empêche un peu de penser ce qui s'y passe. Alors, les élus, tout à l'heure, je parlais d'exemplarisation. J'y reviens un petit peu dessus. C'est le fait de montrer toutes les ressources positives. Et il y en a, bien sûr, en Seine-Saint-Denis, la création des associations, la création des entreprises, la diversité, on va dire, le multiculturalisme de facto qui existe. Voilà, les élus essayent de montrer ça, mais en même temps, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une sorte de... La médiatisation n'y arrive pas jusque-là. Donc, elle bloque tout ce qui est ressources positives. Donc, voilà. Et il y a aussi la question de ce catalogue a un sens au point de vue existentiel. Tout à l'heure, je parlais d'inégalité scolaire et j'ai eu plusieurs témoignages d'enseignants en primaire en Seine-Saint-Denis qui sont... qui sont dramatisés. Il y a des statistiques, ils savent, ils voient les élèves rentrer en début d'école, que ce soit en primaire, et ils savent bien, les chiffres le parlent, que peut-être un va accéder au bac ou à l'université. Voilà, c'est le sens concret de ce qui se trame en Seine-Saint-Denis. Et après, il y a toute la question aussi des parcours, des populations, des parcours individuels qui sont assez erratiques. Donc, il y a des parcours de réussite, mais il y a aussi des parcours hachés qui vont à la réussite, mais qui sont très hachés en matière de santé, d'inégalité, en matière de logement, etc. etc. quoi. Donc, voici la question de la traduction existentielle.
Une anecdote, je ne sais pas si j'ai envie de faire enregistrer.
Si,
une anecdote, je connais quelqu'un qui travaille dans une boîte d'assurance à Paris, très connue, et il s'est agi de déménager la boîte d'assurance très connue à Saint-Denis. Et pendant un an, les salariés, certains salariés étaient très mal. Ils ont fait des dépressions nerveuses. Ils ne voulaient pas se déplacer. C'était en fait parce que les loyers étaient très chers à Paris, donc c'était plus facile de décentraliser. Et il y a eu aussi ces navettes. Et vraiment, elle racontait, avant de le connaître, avant de l'avoir vécu, hein, une espèce de fantasme sur Saint-Denis, quoi. C'était incroyable. Mais ce qui était étonnant, c'était aussi la façon dont, je ne sais pas après comment ils étaient pris en charge, faisaient du self-défense ou pas. J'imagine très bien cette personne faire du self-défense. Là, c'est vraiment vous pointez quelque chose, une anecdote que j'ai déjà entendue. Donc après, comment ces problèmes-là sont résolus, je pense que ces gens ont d'immenses primes aussi. Enfin, ils avaient des primes pendant un certain temps, je pense, pour rester là-bas. Et il y en a certains qui ont démissionné, il y en a certains qui ont fait des dépressions nerveuses, et il y en a qui ont tenu le coup à condition qu'il y ait la navette, qui ne se mêle surtout pas à la population.
Je peux pas m'empêcher sur Saint-Denis, mais le problème en fait des navettes pour les instituts, pour les théâtres, etc., le problème des vigiles, le problème des self-défense, c'est qu'en fait, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'implantent à Saint-Denis, vraiment. Enfin, il y a Orange, il y a tout un tas d'entreprises très très importantes. Sauf que les gens qui travaillent dans ces boîtes-là en fait, ne vivent pas à Saint-Denis, donc ils ont une peur totale de la ville et du département en général. Et donc, en fait, on crée en fait, des étrangers en fait, qui viennent dans un territoire qui est moins cher, etc., donc qui a plein d'avantages. Ce qui fait que en fait, la ville et le département en général, hormis la redistribution fiscale, donc ça c'est très important pour la ville, évidemment, mais pour ce qui est de la vie, en fait, pour ce qui est de la transformation de la ville qu'on pourrait attendre, elle n'arrive pas du tout, hormis l'arrivée de bureaux, etc. Donc, en fait, si les théâtres... du nord parisien en fait fonctionne en ce moment, il y a un retour de vitalité depuis quelques années, c'est essentiellement parce que les parisiens vont au théâtre en fait, et pas parce que les dionysiens ou les gens du 93 y vont. C'est-à-dire, ils y vont aussi, mais beaucoup moins, enfin, c'est une évidence. Donc en fait il y a ces réussites, et puis voilà, il y a ce truc là qui fait que finalement en fait on a un progrès formel, mais voilà, ça n'évolue pas, ça peut pas évoluer, quoi, voilà, dans ce cas-là, voilà.
Par exemple, des instruments de mesure, par exemple, comme les loyers parisiens augmentaient énormément, il y a beaucoup de gens de notre classe sociale qui vont habiter en banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis. Je suis allée dans une soirée récemment, dans une sorte de loft absolument magnifique. Évidemment que les enfants allaient tous à l'école privée intramuros.
Oui, non, mais...
Donc, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a des moyens de saisir cette réalité-là précisément, c'est-à-dire justement les gens habitent, mais à l'école, il n'y a aucune communication. Donc si ça ne se passe pas à l'école, ça ne se passe nulle part.
Oui, il y a des données.
Bien sûr.
Non, parce qu'hier, Louis Morand disait que, par exemple, il ne pouvait pas parler de la pauvreté à Poitiers, que la question des statistiques locales, c'était hyper compliqué, etc. Donc...
Mais après, ça dépend du degré de localisation des données. C'est-à-dire, jusqu'à quelle échelle produisent des données très localisées.
D'accord.
Je me posais la question hier de savoir si votre observatoire travaille avec des élus. Il y avait le conseil de développement responsable de l'agglo.
C'est enregistré.
Il y a pas de vue, voilà. Donc parce que le conseil de développement responsable serait très intéressé par le travail que tu fais. Ce sont des gens qui monopolisent, etc. Du public, ils font un gros travail sur des sujets comme l'alimentation. Moi, j'organisais des soirées à l'hôtel de ville ouvert à tous sur la mobilité. On appelle ça les conférences ville. Donc on a invité des gens très importants, des sociologues, des géographes, etc. Et il y avait tous les citoyens de la ville de Poitiers qui étaient dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville, c'est assez symbolique quand même. Le conseil de développement responsable fait énormément un gros travail là-dessus. Donc quand vous dites qu'on n'arrive pas à quantifier la pauvreté à Poitiers, je suis en train de me demander, posez-leur la question. Ça passe, voilà. Parce que moi, l'autre jour, quelqu'un qui est au conseil gouvernement responsable m'a dit qu'il y avait 1000 familles qui allaient chercher dans les banques alimentaires.
Enfin, non, mais attendez, il ne faut pas exagérer. D'abord, l'observation.
Voilà, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc maintenant, moi, je vous dis ce que j'ai entendu.
Oui, on connaît un peu le sujet.
Je
ne
suis pas spécialiste.
Je sais, mais je vois. La question n'est pas là. Bien sûr, l'observatoire travaille avec toutes sortes de données, des acteurs. Si vous allez consulter les CAF, vous apprenez énormément de choses.
Oui.
C'est pas dans l'ignorance de ce genre de choses-là que Morin disait hier. C'est sachant tout ce que nous savons, il y a encore des choses que nous ne savons pas.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais que. Il faudrait qu'il faut aller vers les élus.
Non, on ne peut pas tellement aller vers les élus parce qu'il y a la question de la politisation.
Oui.
Les élus, on ne leur demande pas à eux de nous décrire la situation.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que ces conseils de gouvernement responsable, etc.,
il y a l'analyse, il y a énormément de
choses. Oui, c'est intéressant, c'est discuter. C'est que vous soyez invité pour discuter chez ce
groupe. Ah, mais ils sont
élus. Ça, c'est bien.
Alors, excusez-moi, il y avait une dernière question, je crois. Puis après, on va peut-être arrêter là.
Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez par rapport au territoire de la Seine-Saint-Denis, qui était où les progrès qu'on voyait par rapport aux investissements qui étaient faits localement par les grandes entreprises ou par les théâtres, dans une mesure différente, ne reflétaient pas la vérité de l'évolution de la vie sur place. Et je me demandais, parce que ça fait écho à que j'avais pu voir avec Dominique Méda sur le travail, la révolution nécessaire, où justement elle demandait la redéfinition d'indications, d'une meilleure indication que le PIB pour comparer le niveau des pays, etc., et ne plus faire ces classements par rapport au PIB. Et donc du coup, je me demandais comment vous, par rapport à la fin, en fait, j'ai l'impression que tous vous en avez un peu parlé de par rapport à ça, par rapport au seuil de comparabilité, et donc comment redéfinir justement des nouveaux critères de comparaison entre, que ce soit à l'intérieur d'une région ou à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur du monde.
Tu veux qu'on fasse la table ronde en fait, c'est ça? C'est hyper global. Ouais.
Juste la question que vous posez, c'est une question qui est très médiatique en ce moment. Il y a eu la commission de Seine et de Fitoussi sur la question du critère, en fait. Dans la production statistique, finalement, il y a deux questions qui se posent. C'est la question du quel critère est adéquat, et c'est celle dont on parle beaucoup en ce moment. Puis il y a une question dont on parle beaucoup moins, c'est comment sont produites les statistiques en amont. Et c'est notamment la question que pose Desrosières. Qu'est-ce qui se passe dans l'interaction concrète entre les enquêteurs et les enquêtés? En quoi, dans la production de la statistique, il y a aussi des rapports d'acteurs pour qui celui qui est enquêté, il y a des enjeux très, très concrets, très, très, très politiques? Et cette question-là, on en parle beaucoup moins. Et du coup, en fait, je ne réponds pas du tout à votre question, mais je donne l'autre face, en fait, de la question dont on parle moins et qui, j'imagine, à l'Observatoire des inégalités, sont les deux aussi questions... auxquels il faut faire face pour forger des outils qui ne sont pas seulement des outils de connaissance, mais encore une fois, des outils éventuellement politiques qui sont mis à disposition d'acteurs, de mobilisation, etc. etc.
Oui, en fait, ça vient compléter ta réponse parce que je vais parler justement de Seine. En fait, c'est bien connu sur ces analyses de comparaison des inégalités, mais c'était une tentative de dire, bon, on a des chiffres, on sait qu'ils ne représentent pas du tout la même chose aux États-Unis ou en Thaïlande. Être pauvre aux États-Unis ou en Thaïlande, ça ne se mesure pas de la même manière. Et donc d'essayer d'échapper aux chiffres uniques sur le revenu pour revenir sur qu'est-ce que les gens sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont capables d'être, est-ce qu'ils sont capables de manger dans leur pays, est-ce qu'ils sont capables de parler, est-ce qu'ils sont capables d'avoir accès à l'espace public. Et donc ça, c'est l'approche qu'il a appelée par les capacités. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans tel endroit avec tel revenu? Et donc ça croise aussi des questions de genre. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes besoins nutritionnels qu'un homme. Si vous êtes une femme enceinte, vous n'avez pas les mêmes besoins nutritionnels qu'une femme qui ne l'est pas, etc. Donc revenir au-delà du chiffre sur qu'est-ce que ce revenu vous permet de faire, qu'est-ce qui vous permet d'être dans tel contexte. Et donc là, on rejoint la question que tu posais sur le particulier et l'universel. Les chiffres, c'est très pratique parce que ça se compare sur une échelle. Évidemment, donc ça c'est l'aspect universel qu'on cherche et qui est commode et qui a un accès. Et puis ça, revenir à la capacité, c'est revenir l'inscrire dans un contexte où vraiment le chiffre, ça traduit en fait une manière de faire, une manière de vivre, une manière d'être. Voilà.
Pour répondre répondre à votre question. Il y a, si vous voulez, je vous la montre, c'est dans ma besace, mais même il y a eu des analyses faites grâce aux indicateurs de capacité, je ne m'y connais pas beaucoup, par une géographe qui montrait encore une fois des disparités sociales croissantes, et notamment en Seine-Saint-Denis, à l'échelle régionale, hein, avec des indicateurs sur le bien-être, sur la santé, etc. Donc les indicateurs sont différents, mais le constat est le même. Après, il y a la question, peut-être qu'on n'a pas assez parlé, du sens un peu plus politique, éthique, du seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire jusqu'à quand on va accepter telle ou telle inégalité, et notamment leur cumul, quoi, leur concentration. Et quel indicateur ou quelle situation va amener à une décision claire et nette. Mais jusque-là, il y a des décisions qui sont prises à différentes échelles, il y a des négociations politiques, pas politiques, associatives, etc., mais qui n'arrivent pas à avoir un sens global pour réduire des inégalités dans un département ou dans une région. Je suis un peu séquano Dionysio centriste, désolé.
C'est pas grave.
Bon, alors je vous propose qu'on arrête là. Et puis, merci à vous. Merci à tout le monde.